Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Football is life.
Bonsoir.
Ça va ou quoi, Internet ?
Bonsoir.
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 1, 2, 3. On va vous dire bonsoir pour de vrai. Attention.
Bonsoir.
Bonsoir, Internet.
Bonsoir.
Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir, Mimi.
Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Mimi.
Bonsoir,
bonsoir
Mimi.
Bonsoir, Ezoc, Arnaud, Plisso, Chino. Bonsoir. Bonsoir, la MIF. Bonsoir, la Richemont Family. Nous sommes réunis ici dans une heure grave.
Oui.
Un jour tragique.
Oui.
Mais ne célébrons pas le fait que ce soit fini. Célébrons
non.
Le fait que ce soit arrivé. On va faire nos adieux à Ted Lasso avec toi, Fabrice.
Oui.
Welcome back. Tu ne peux donc plus arrêter de venir parler de séries télé le mardi soir.
Non.
C'est ça qui se passe.
Oui.
C'était dur ce premier lundi sans succession ou ça allait ?
Non, ça allait.
Okay.
J'étais content que ça se termine en fait.
Bah, c'était pas les matinées les plus émotionnellement stables du monde, quoi. Moi, ça m'a manqué un petit peu quand même. Je me suis réveillée, j'étais là. C'est un peu moins bien, mais bon.
Mais t'as la nouvelle série du mec de Foria, là.
Ouais, j'avais pas regardé. J'ai fait un sondage lundi dans le chat et aussi sur mon Insta, donc sur The Idol, la nouvelle série du créateur de Foria avec The Weeknd et Lily Rose Depp, qui est la nouvelle série HBO. C'est une mini-série de 5 épisodes. Déjà assez controversé et apparemment pas très quali. Et j'ai demandé, ok, est-ce que vous allez regarder? Parce que si tout le monde regarde, je vais me taper les 5 épisodes et on en fera un débrief. Et j'ai une majorité de vraiment non. Je ne vois pas pourquoi je m'infligerais ça. Donc, on va plutôt parler d'une série qu'on aime bien.
C'est oui.
quand même un peu plus sympa. Par contre, lundi, j'ai regardé Game of Thrones. J'ai regardé un épisode spécifique de Game of Thrones. J'ai regardé l'épisode 9 de la saison 3, The Reign of Castamere, parce que la semaine prochaine, on continue à parler de séries sur cette chaîne avec Tequila Tex, qui revient mercredi et non pas mardi prochain, à 20h.
Tu me fais une infidélité.
Oui, désolé, je reviens à mes premières amours sur cette chaîne en tout
oui,
cas.
Oui, c'est vrai.
En parlant de Westeros avec Tequila Tex, puisqu'on va faire un retour sur les noces pourpres, le fameux épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones, dans lequel un mariage tourne plutôt mal.
Je l'ai jamais vu.
Si, tu l'as vu celui-là. Non,
non, j'ai juste vu la séquence, tu vois, j'ai fait ok, ça dégage.
Ouais, c'est quand même 80% de l'épisode, donc ça va. On s'en parle avec Tequila la semaine prochaine, donc j'étais quand même un petit peu sur HBO ce lundi, avant de repasser sur Apple TV+, pour enfin finir Ted Lasso. On va vous parler de Ted Lasso, du coup, avant ça, Fab, est-ce que t'as une petite actu, un truc à pousser, une pub à faire ?
Écoute, j'ai plein de super podcasts qui sortent cette semaine.
Ah, voilà. Ça c'est bien. Abonnez-vous donc à l'intégralité des contenus
oui.
de Fab, à savoir, je vais essayer de pas en oublier, histoire de daron, histoire de daronne, histoire de succès, histoire d'argent, histoire de mec. Et après, il y a... alors, il y avait...
Il y a le film club.
Oui, le film club qu'on fait ensemble, bien sûr. Non, mais je pense au truc que tu fais sans moi, tu sais, quelle idée
ouais,
de faire des podcasts
quelle idée de faire sans
moi.
Podcasts sans Mimi.
Bah, t'as le Fab Flow. Et t'avais les petits biscuits de la vie.
Ouais, non, il y a plus ça.
Et passion de canard. Non.
Ouais, non. Et le deuxième vie après le divorce.
Oui.
Mais ça, c'est voilà.
Qui était une mini-série sortie l'été dernier, toujours disponible.
Si vous avez divorcé, c'est une excellente idée de.
Si vous n'avez pas divorcé, mais que soit vous y pensez, soit ça vous intéresse, qu'est-ce que c'est la vie après le divorce? Écoutez Fabrice Florent et Maï EA vous en parler dans un excellent podcast dispo sur toutes les plateformes. Voilà. À part ça, eh ben, on va vous parler de Ted Lasso. Du coup, générique.
Générique.
Mets donc ton petit écouteur, comme ça tu l'auras.
Oui, c'est vrai.
Bon, c'est un peu moins drama que le générique de Succession ou de House of the Dragon, mais on est quand même ravis d'être là. maintenant que t'as de l'assaut, c'est fini. On peut admettre que ce générique, il est nul à la fois visuellement et musicalement.
Oui, il fait le taf. Il sert pas à grand chose, mais il fait le taf.
Ouais, franchement, ouais. Pour une série de cette qualité, je suis là. Heureusement que il y a pas que le.
Ouais, mais ça marche, tu vois, parce qu'après 3 saisons, on la chantonne comme des connards, donc
bien
ça marche.
Bien sûr, mais on a été matrixé, ça fait 30 ans qu'on est là ensemble. On va vous spoiler, voilà, petite alerte, comme d'habitude, on va vous spoiler l'intégralité de Ted Lasso, une série qui est finie après 3 saisons, qui est dispo sur Apple TV+, qu'on vous recommande chaudement, qui parle de masculinité, de football, d'amitié, de grandir, de choisir quoi faire de sa vie. C'est hyper cool, c'est hyper feel good, vous n'avez pas de raison de ne pas regarder Ted Lasso. Voilà.
C'est vrai.
Donc si ce n'est pas le cas, soit vous restez et bienvenue, soit vous avez déjà vu Ted Lasso et du coup n'allez nulle part, soit allez voir Ted Lasso et revenez.
Précisons après. Que la série est dispo sur TV+, donc la plateforme d'Apple, mais aussi si vous avez Canal+, désormais toutes les séries TV+ sont dispo sur Canal.
C'est vrai,
donc vous pouvez aller la regarder, il y a plein de séries géniales sur cette plateforme, notamment The Morning Show.
Oui, on m'a réclamé des contenus autour de The Morning Show.
Ah bah bien sûr, c'est
donc
évident.
Quand ça revient, car ça va revenir.
Non mais en revanche, je crois qu'ils auraient dû juste s'arrêter à la saison 1, c'est tout, tu vois.
C'est possible.
Fallait s'arrêter après. Parce que la 2 est quand même vachement moins bien.
Oui, mais c'était aussi Covid et tout, tu vois, compliqué, il me semble. À voir si la saison 3 rattrape un petit peu la 2. Bon, je vois que dans le chat, je ne suis pas forcément en majorité sur cet avis sur le générique, puisque Nodus nous dit qu'il le trouve super feel good, et Stinian nous dit visuellement, j'aime bien.
Moi, j'aime bien que les sièges, tu vois, que les sièges du stade sont, qui sont tout gribouillés, graffités, machin, tout ça, ils finissent par devenir tout beau, quoi, tu vois, parce que c'est Ted.
Parce que Ted répare les choses.
Ted répare.
On va faire nos adieux à Ted Lasso, ce qui veut bien dire que Ted Lasso c'est fini. Du coup, je me suis dit qu'on allait commencer par parler un peu de la fin du dernier épisode de Ted Lasso, puisqu'on n'a pas fait de débrief pour le coup de cette série.
Est-ce qu'on ne fait pas d'abord un pitch de cette série?
Ah oui, bah faisons
parce
un pitch
pour
celles
les gens
et ceux qui ne savent pas. Fabrice, à toi l'honneur, parce que c'est toi qui m'as convaincu encore une fois de regarder Ted Lasso. Les séries sur le foot, je saute pas dessus. Okay,
voilà, effectivement,
un procès. Bon.
C'est une série sur le foot,
oui.
Mais en fait le foot, si vous arrêtez au foot, vous ratez peut-être 90% de ce qu'est la série, parce qu'en fait la série ne parle pas de foot, c'est juste ça, c'est le cadre dans lequel évoluent tous les personnages, qui est un club de foot de première ligue, et c'est aussi le cadre dans lequel évolue donc Ted Lasso, qui est le personnage principal, qui est à la base un coach de football américain, de foot
pas
US.
Pas le même sport.
Voilà, donc avec la où ils envoient la balle comme ça, il faut faire 10 yards
hut,
et tout.
Hut,
et pouah.
Il se cogne dessus.
Voilà, et en fait le mec est débauché. Apparemment il a plutôt réussi, puisqu'on le voit au tout début du premier épisode en train de faire la fête avec ses potes et de faire sa fameuse danse qu'on verra à la fin de la série.
Oui. La Lasso Way a déjà un peu fait ses preuves.
Exactement, parce qu'en fait on comprend que le mec a été couronné de succès dans sa carrière de coach de football US, et en fait il est embauché par la propriétaire du club de Richmond, on comprend
britannique,
pas
du coup.
Britannique de soccer, donc
le
footballeur, de football américain, de football européen, donc, avec où vous devez taper dans un ballon et le mettre au fond d'un but.
Oui, avec votre pied.
On comprend pas trop pourquoi, au départ, ce mec est débauché, parce qu'il n'y connaît strictement rien en soccer. Il ne connaît pas les règles.
Il ne sait pas ce qu'est un hors-jeu.
Il ne comprend rien, tu vois. Effectivement, il ne sait pas ce que c'est un hors-jeu. Et petit clin d'œil à la fin de la saison 3, effectivement, dans le dernier épisode, il capte. Et il se file
l'occasion pour moi
de
dire à mon compagnon, mais au fait, c'est quoi un hors-jeu? Car je ne le savais pas non plus. Mais voilà. Je ne suis pas payé pour entraîner un club de foot, donc c'est moins grave.
Très chiant à expliquer, mais globalement, c'est un peu la question piège que posent tous les mecs à la con aux meufs qui disent, moi, j'aime bien le football.
Oui.
C'est quoi le hors-jeu?
Ah ouais,
parce
t'as un t-shirt de foot, cite-moi 3 hors-jeux.
Voilà, exactement. 3, 1, quoi? Non.
C'est une bonne chance, cite-moi 3 de leurs albums.
Ah oui. Et donc, ouais, c'est un peu chiant à expliquer, mais globalement, c'est une règle un peu technique. Et qui est pas...
C'est quand tu crois t'as mis un but, mais l'arbitre il te dit garde bien la pêche, c'est non.
Voilà.
Prouver que j'ai tort.
Plus ou moins, c'est ça. Et donc ouais, on comprend après coup que en fait Rebecca, qui est la nouvelle patronne du club de Richmond, a hérité entre guillemets du club après son divorce avec le propriétaire historique qui s'appelle Rupert, dont on va entendre parler beaucoup au fil de la saison et de la série.
On est content que ce soit un ex, quoi.
C'est un sacré connard.
Oui.
Et en fait, Rebecca, au début de la série, n'a qu'une envie, c'est de ruiner ce club et c'est de le faire descendre le plus possible en division 2, etc., etc. Et donc, forcément...
C'est chaud quand ton nouveau job, c'est un sabotage, quoi. T'es là, ouais. Bah, c'est pas hyper sympa pour moi, quand même.
C'est ça. Mais bien sûr, Ted ne le sait pas et il finira par l'apprendre à la fin de la saison 1 dans une très chouette discussion. Mm-hmm. Et donc voilà, ça c'est un peu le pitch. Et effectivement, après, autour de ça, il y a plein de personnages très hauts en couleur d'une manière générale.
Oui.
Y a, et en fait, tous les personnages sont ultra cool. Effectivement, il y a toute l'équipe de foot qui va, dans lequel il y a déjà la base, mais on va en avoir deux, trois nouveaux. En tout cas, on va finir par les connaître au fil de l'eau, quoi. Et puis aussi, bien sûr, Dani Rojas, qui n'est pas là au
Football
début.
Football is life. Et non! Il arrive tel un soleil.
Et puis, il y a Kaylee aussi, qui joue un peu la RP,
ouais, c'est
genre,
voilà. Ça finit par être la responsable de relations presse du groupe.
Et il y a le directeur des opérations, Leslie. C'est pareil, en fait, on finit par apprendre plein de trucs sur lui. Au départ, il est plutôt dans l'ombre et il se fait un peu bolos par Rebecca, très clairement. Et Ted est venu avec lui dans ses valises, avec son assistant de toujours, qui s'appelle Bird. Parce qu'il a une barbe, hein, tout simplement, et qui est un personnage, c'est pareil en fait, au départ un peu énigmatique, et on finit par en apprendre beaucoup plus tout au long de la série sur Bird, qui est pour moi le meilleur perso de toute la série.
Ah bah écoute, on parlera de nos préférés, il est clairement dans mon top 3.
Oui.
Et il y a un épisode dans la saison 2 qui est Beard Night Out, où c'est un épisode qui sort de l'intrigue pour juste nous emmener pour une nuit de folie avec Beard, qui est un mec qui aime bien prendre des champis et faire la fête avec beaucoup la fête et beaucoup des gens, des fois tout nus. Et c'est un de mes épisodes préférés, il est un peu controversé comme tous les épisodes qui font pas avancer l'intrigue dans des séries, mais et qui changent du rythme habituel, mais moi je l'adore. Et j'espérais d'ailleurs dans cette saison 3, quand on a un moment à Amsterdam, à un moment tu crois qu'on va revoir parce que Beard et Ted prennent des champis, enfin Beard en prend et il s'en va, donc tu te dis ok, Beard épisode 2, moi j'étais chaude. Donc oui, je l'aime beaucoup.
C'est vraiment, donc voilà, ça c'est un peu le pitch de cette série qui a, donc au départ pour moi il y a un autre truc à noter qui est intéressant, c'est que il y a les épisodes font une demi-heure pendant les deux premières saisons, 30-35 minutes, et la dernière saison chaque épisode est beaucoup plus long, il fait entre 1 heure et le dernier je crois qu'il fait 1h20, donc ça, pour avoir encore plus de Ted Lasso, mais à chaque fois 10-12 épisodes par saison si je me trompe pas.
Oui, en gros j'imagine que ça aurait pu être, on fait deux saisons d'épisodes de 30 minutes parce que ça fonctionne bien, donc je pense pas qu'ils étaient obligés de s'arrêter. Je pense pas qu'Apple leur a dit bon, on stoppe. C'est une des séries Apple qui a le mieux performé parce que les séries Apple sont plutôt quali. Chino dans le chat parlait de For All Mankind, qui est une des séries de SF les plus quali du moment, mais qui ça perce pas, enfin c'est pas Netflix quoi, et même Prime qui commence à être grand public, donc je pense qu'ils auraient pu continuer. Mais ils voulaient finir à une saison 3 et ça fait des épisodes effectivement plus longs et qui ont peut-être le temps d'être un peu plus dramatiques, que quand en 30 minutes il faut que t'aies au moins 3 vannes, bah du coup toutes les 10 minutes tu rigoles un peu quoi. Là des fois pendant 25 minutes tu rigoles pas trop. Mais tu passes par un mauvais moment pour
eux. Oui.
Et alors pourquoi c'est si bien ?
Alors déjà je trouve que pourquoi c'est si bien ? C'est dur.
En rapide, on est toujours dans le pitch.
C'est dur d'expliquer pourquoi, parce qu'en fait ça parle de... Ted Lasso, sous couvert de parler de football, en fait, parle de plein de choses, vraiment de tas et de tas de sujets, et qui souvent concernent la masculinité, et qui souvent concernent les rapports humains d'une manière générale. Et surtout pour moi, pourquoi c'est si bien, c'est que c'est l'une des rares séries où chaque personnage prend soin des autres. Et en fait, on blaguait en disant que c'était l'anti-succession dans le chat cette semaine, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment l'anti-succession. Si Succession vous a mis un coup derrière la tête, parce que notamment la dernière saison, elle est ultra dure.
C'est normal. Vous êtes humain, bravo.
Exactement. Vous pouvez regarder Ted Lasso parce que ça va vous filer la pêche, en fait.
Ça apaise l'âme.
Ouais, c'est ça. Et aussi bien ce personnage-là. En fait, pour moi, ce qui est vraiment canon, c'est qu'il creuse tous les personnages. On finit par en apprendre beaucoup plus sur tous les personnages que ce qu'on finissait par savoir, que ce qu'on savait au départ. Pardon.
On vient de tourner deux podcasts d'affilée. Ok, vous ne le savez pas, mais ça commence à faire pas mal d'heures qu'on cause.
J'ai fait deux interviews avant ça dans la journée.
Toi, ça fait 5 heures d'affilée que tu causes dans des micros, quoi.
Ouais.
Donc, vous nous pardonnerez quelques petits bafouillements.
Mais ouais, voilà, c'est. Pour moi, ça reste vraiment... En fait, tu vois, souvent, je me moque un peu des quadras, des genre vieille trentenaire quadra qui regardait Friends pour la 14e fois, tu vois, et qui continue à la regarder en boucle et qui se dit
des bisous à Soraya qui écoute cet épisode probablement
et qui disent qu'en fait c'est leur série doudou. Eh bien tu vois, moi je crois vraiment que Ted pourrait devenir ma série doudou, quoi. C'est vraiment une, j'ai vu deux fois pour l'instant et j'ai trois fois en fait et j'ai adoré, et en fait je le reverrai bien une troisième fois, genre un rewatch complet, là, ça serait cool, quoi.
Bientôt, ce sera l'heure d'un rewatch de Ted Lasso, tu vois. Peut-être à l'automne, quand il commencera à faire moche, ouais, et tout, tu seras là, j'ai envie de repartir à Richmond.
Et alors, on en parlera, mais pour moi, c'est vraiment l'une des séries qui m'a fait le plus pleurer de tous les temps. Et pleurer de plein d'émotions différentes, de joie, de tristesse. En fait, je trouve que les auteurs arrivent à appuyer sur des boutons qui, moi, me cassent, enfin, me m'ouvrent en deux, littéralement. Et depuis à peu près le milieu de la saison 1, je pleure à chaque épisode. Voilà.
Écoute, je comprends. J'ai moins pleuré que toi devant Ted Lasso, clairement. Mais je me dis aussi qu'il y a des thématiques qui doivent te parler un peu plus. Notamment, on l'a peut-être mentionné rapidement, mais Ted Lasso, il est père.
Et
son enfant, il est resté aux États-Unis. Et c'est un grand sujet dans sa vie que son fils lui manque et qu'il soit séparé aussi de son ex-femme parce qu'elle lui manque aussi. Et je sais que pour toi, c'est des problématiques qui forcément te parlent puisque tu as toi-même deux enfants et tu as parfois, tu t'en éloignes pour des raisons professionnelles, quoi. Et puis, il y a aussi des réflexions sur la vie pro, la carrière, comment on donne du sens à son travail et comment on manage des gens. Et ça, c'est forcément des thématiques qui nous parlent. Du coup, on est ravis de vous causer de Ted Lasso. On a une team Ted Lasso dans le chat, hein. On a Plisso qui dit, je viens de la finir et j'ai déjà envie de tout revoir. Alors, Laura Joy nous dit, je suis à la saison 3, épisode 8. Once again, on va spoiler la fin, hein. Donc, t'es pas loin. Moi, j'ai pas envie de te chasser du live, mais voilà, t'es pas loin de juste profiter de la fin sans savoir. Après, si tu t'en fous, bah, on va sûrement raconter la fin. Et j'aime tellement ces personnages. Nous dit, j'ai raté, sorry, où est-on ? Nous dit Stinian. On va parler du coup un peu de la fin, en mode débrief, même si on va pas faire le déroulé complet de l'épisode comme on le faisait sur les autres séries, puisqu'on prendra le temps ensuite de parler Ted Lasso plus largement. Mais entre nous, on a même pas débriefé, parce que j'ai regardé le final lundi, et on s'en est pas parlé, j'ai choisi de ne pas venir t'en parler, enfin qu'on puisse avoir une discussion un petit peu inédite avec vous, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette fin de Ted Lasso ? Est-ce que t'es content ? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ? Est-ce que tu restes sur ta fin, sur certaines choses ?
Écoute,
est-ce qu'ils ont réussi leur coup ?
Alors moi, déjà, je suis très heureux que ça se finisse comme ça, en fait, tu vois. J'ai rêvé ou j'avais vu qu'ils avaient teasé Rebecca enceinte sur les réseaux sociaux.
Ah, je sais pas, je suis pas les comptes de séries que je regarde sur les réseaux,
moi non plus,
car
mais
je suis zinzin des spoilers.
Mais moi aussi, en fait, j'étais tombé dessus et je m'étais dit, mais what, Rebecca est enceinte et tout. Et en fait, il y avait un peu ce fil, je sais bien que j'aurais pas dû, enfin j'aurais préféré ne pas le voir, parce qu'il y avait un peu ce fil de ok, en fait, est-ce qu'à la fin il y aura un moment genre ok, 5 ans plus tard, l'année prochaine, voilà ce qui se passe, nani nana, pas du tout.
Bah, elle a quand même dans cette saison un docteur qui semble lui confirmer que elle est plus fertile, parce que quand elle a la médium qui lui dit vous serez mère, elle est là, tu sais quoi, je vais aller check, on sait jamais, je vais aller check, et le docteur lui dit girl, c'est dead, on peut avoir. La nature est pleine de surprises et le corps humain est formidable. Oui. Mais la série a quand même pris le temps de nous dire, a priori, si elle est mère, ça va être différemment. D'où les interprétations de est-ce qu'elle va devenir la mère de l'enfant de Ted ? Est-ce qu'elle va devenir la mère de cette petite fille qu'elle a rencontrée ? Enfin, la compagne de ce papa qu'elle a rencontré à Amsterdam, ou la mère plus métaphorique du club, de l'équipe, ce qui aurait pu être ça, parce que dans le dernier épisode, il y a beaucoup de la matriarche. Ça me saoule un peu qu'ils aient mis matriarche.
Pourquoi ?
Non, c'est elle. Qui dit j'aurais préféré qu'ils n'utilisent pas le mot matriarche.
Oui, oui, mais moi, je trouve ça cool, au contraire.
Bah oui, ça lui va bien.
C'est important. Mais après, globalement, en fait, j'étais un peu déçu. Je trouve que le dernier épisode a réussi à m'avoir, mais pour une raison très personnelle, à la fin où j'ai pleuré, puisqu'il y a toute la dernière séquence qui se joue sur la chanson Father and Son.
Et qui, Cat Stevens ?
Oui.
Oui, Youssouf Islam, Cat Stevens.
Et en fait, c'est très personnel parce que c'était l'une des chansons préférées de Denis, notre ami en commun, qui est mort il y a 4 ans d'une façon assez brutale et violente. Et que, en fait, forcément, entendre cette chanson-là à ce moment-là, Father and Son, Denis était une figure paternelle pour moi, j'ai toujours dit, ça m'a tordu le cœur, quoi, tu vois. Mais là où, en fait, globalement, par rapport à S'il n'y avait pas eu cette chanson, en gros, j'aurais pas pleuré. Et en fait, j'étais un peu déçu, mais je crois que globalement, le dernier épisode évite. Par exemple, tu vois, on n'a pas cette discussion entre Ted et Rebecca sur pourquoi il part. Moi, je suis désolé, mais moi, je veux savoir à quoi elle ressemble leur discussion, quoi. Parce que le cliffhanger sur l'épisode d'avant, mais d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire. Mm-hmm. On se doute bien que ça va être ça. L'épisode ouvre sur une blague.
Une blague qui est à destination directe des fans. Hein. Des fans qui, comme moi, pensaient que Rebecca et Ted allaient finir ensemble. J'avoue, j'étais dans cette team. Je me suis fait bambouzelle de fou. J'ai vraiment crié, je le savais, à la télé. Tu vois, tel chivreuil qui crie victoire trop tôt, là. Qui croit qu'elle a gagné alors que pas encore. Mais en même temps, quelle meilleure façon d'avoir tort que de voir Coach Beard débarquer en string dans la cuisine de Rebecca. Je prends, tu vois.
Est-ce que t'as quand même eu un moment de, ok, est-ce qu'ils ont fait genre un plan à 4?
Bien sûr.
Un plan à 3?
Oui, oui.
Un plan à 3 d'abord, puis, ok.
Ah oui, bien sûr, j'étais là, peut-être, tu vois, fuck it. Mais ce qui n'empêche pas que je pensais que Ted allait partir. Je me disais, ils ont couché ensemble juste
non,
avant.
Non, mais
de
j'aurais
partir,
détesté qu'ils fassent ça. Et tu vois, il y a Trafficote qui dit, j'ai eu très peur pendant cette saison qu'ils mettent Rebecca avec Ted, notamment dans un épisode où il sort avec lui la pochette d'allumettes vertes qu'elle associe à sa relation à la maternité, mais finalement non. Platonique jusqu'au bout. Et t'as bien
non,
raison.
Mais je suis d'accord, j'étais vraiment pas fâché d'avoir tort. Hein.
Oui. Et effectivement, tu vois, je trouve que, ok, il démarre ce truc par une blague qui marche trop bien, qui est, ok, tiens, t'as vu, je t'ai eu. Et moi, je me suis fait aussi avoir, tu vois, je me suis dit, ok, what, que se passe-t-il? J'étais moins avec, dans ta team, ouais, trop bien, je savais que, ok, les gars, franchement, vous avez donc des trucs à nous raconter sans aucun doute. Mais non, en fait, c'est juste une fuite de gaz ou je sais pas, un truc comme
oui,
ça.
Il y a eu une fuite de gaz dans le quartier de Beard et Ted. Et du coup, ils se sont réfugiés avec Jane qui était là, chez Rebecca. Voilà. Comme le scénario nous l'explique en mode gros sabot, tu
oui,
sais.
Oui,
gros
sabot.
L'important, c'était, vous y avez cru un peu quand même.
Mais effectivement, j'aurais bien aimé avoir ce moment-là. J'aurais bien aussi aimé avoir le moment où Ted annonce à l'équipe qui part. Parce qu'en fait, on ne l'a pas, ça non plus.
Non, on n'a jamais de moment où Ted annonce à quelqu'un qui part. On n'a aucune de ces discussions, ni à Beard, qui au final part pas avec lui, mais à la base il a dû lui dire bah on rentre, c'est-à-dire tu lâches ta meuf et tout, c'est chaud quand même, tu vois. Ni à Rebecca, ni à l'équipe, on n'a aucune discussion avec Ted qui dit à quelqu'un je m'en vais.
Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, scénaristiquement. Bon, ok, ça permet de pouvoir peut-être gagner un peu de temps, etc. Mais globalement cet épisode il dure 1h20. Je crois qu'ils auraient pu mettre 10 minutes de moments un peu émotion, de bah en fait. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que Ted a à dire à Rebecca et ce que Ted a à dire à son équipe quand il décide de partir. Et comment ces joueurs réagissent, par exemple, tu vois?
Oui, mais je crois qu'ils nous le disent dans l'épisode quand Ted rend sa copie du livre à Trent et dit « Je changerai le nom » parce que le livre devait s'appeler « The Last Away ». It was never about me. C'était jamais moi le sujet. Et en fait, on voit plus comment les gens digèrent l'info que comment Ted leur dit. Et il est très absent de cette dernière saison. On le voit assez peu. Donc, on nous emmène tranquillement vers... Et tu sais, j'ai pensé à quand tu m'as annoncé, donc après 7 ans de travail commun, que t'allais vendre Mademoiselle et partir. Et la vraie discussion qu'on a eue, c'est pas celle où tu me l'as annoncé. C'est quand j'avais eu le temps de la digérer quelques temps plus tard, et que je t'ai dit « Ok, maintenant je suis prête à en parler », et que je t'ai dit à la fois ce que ça me provoquait de positif, de « Je suis contente pour toi et c'est un super chemin », et de négatif, de « Bah, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de la suite, je viens de devenir rédac chef, je pensais que j'allais le faire avec toi, tu vois ». Et en fait, cette discussion, elle a pris un peu de temps à arriver, comme Rebecca, qui, dans cet épisode, met du temps à aller dire à Ted « Ok, je suis prête à en parler ». Et il se trouve que c'est une discussion où lui, il parle pas beaucoup. Mais au final, on l'a on la voit, la vraie discussion, tu vois. Mais qu'avec Rebecca, pas avec les joueurs et tout. Bah, en fait, on a leurs adieux à Ted, tu vois. Et peut-être c'est ça le plus important.
Ouais.
C'est comment ils honorent la place qu'il a eue dans leur
vie.
J'ai été
un peu déçu par cette séquence de comédie musicale.
Ils ont mieux fait dans Ted Lasso en termes de grand... Après, c'est toujours... on a des attentes... Enfin, c'est les adieux de l'équipe de Richmond à Ted. On a forcément des attentes démesurées, mais c'était... Bon, c'était pas La Land, quoi.
Non.
Un peu mieux.
Clairement pas. Dany Roras.
Ma passion. Est-ce que ça a du sens pour toi que... Alors dites-nous dans le chat aussi qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin. Est-ce que vous avez bien aimé le dernier épisode? Est-ce que vous en êtes satisfait et satisfaite? Comme ça, on vous lira. Est-ce que pour toi, ça a du sens que Ted y reparte aux États-Unis?
Clairement.
Est-ce que pour toi, c'était la fin logique?
Oui. En fait, son fils lui... En fait, pour moi, l'un des trucs mais dont on parlera peut-être après, c'est que on comprend pas au début de la série pourquoi il part. Et on comprend à peu près au milieu de la saison 1, je crois. Peut-être épisode même 3-4. Qu'en fait il est en train de se séparer de sa femme et que en fait il est pas parti de bon cœur et que c'est plutôt une façon comme une autre de mettre de la distance avec elle d'aller là-bas Et forcément, il est obligé aussi de sacrifier sa vie de père, quoi, avec son garçon qui, au début de la série, il a 5, 6...
Ouais, je dirais 7 ans, un truc comme ça, et à la fin, une dizaine, 11 ans, quoi.
Ouais.
C'est des âges où... C'est oui. petit, quoi, ça change vite.
T'as envie d'être là. Et en fait, tu le vois pendant longtemps, au moins pendant les deux premières saisons, courir un peu après sa relation avec son fils, avec qui il a du mal à reconnecter, clairement. Et en fait, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Je trouve que c'est normal, en fait, qu'il y retourne, parce que, OK, il a fait ce qu'il avait à faire, la situation est apaisée avec son ex-femme, même si elle sort avec son
thérapeute
qui a l'air, en plus, dans le dernier épisode, d'être un peu un connard, en fait, par rapport au match de Ted, là.
On avait plusieurs éléments de « c'est pas un mec ouf » les rares fois qu'on l'a vu, et une des parties de « c'est pas un mec ouf », bah genre « mec, t'es psy de couple ». Enfin, à la base, c'était le psy de la femme de Michel. Ensuite, c'est devenu leur thérapeute de couple, ce qui déjà, c'est normalement non, tu vois, parce que ton psy, il te connaît trop bien pour... En fait, il a déjà une idée préconçue de ton partenaire, parce que tu lui as dit plein de trucs. Et du coup, il peut pas traiter ton partenaire et ton couple comme un truc...
C'était sa psy à elle, c'est ça?
C'était son psy à elle.
Ah, oui,
et ensuite, c'est devenu leur psy de couple. Et à un moment, Ted, il en parle au début, quand il explique que ça va pas bien avec Michel. Et, quand il divorce, et il dit, c'est parce qu'il veut pas aller voir le docteur Sharon. Donc, il explique son rapport à la psychothérapie. Et il dit qu'il a été voir un psy avec son ex-femme et il a dit, des fois, je me sentais bizarrement, genre, corner. Genre, comme s'ils étaient tous les deux contre moi. Et quand tu sais que des années après, le psy sort avec la femme, t'es là, peut-être qu'il a pas trop aidé à sauver leur couple, quoi. Ça pose des vraies questions d'éthique professionnelle qui ont été largement discutées sur Internet. Ce truc de, attends, qu'est-ce qui se passe si un psy tombe amoureux si un psy, une patiente tombe amoureux, c'est quoi les règles et tout? Et on en parlera, mais une des personnes qui a écrit la série a abordé un petit peu le sujet de, en fait, ils y ont pensé dans la pièce des scénaristes de c'est pas normal dans tous les cas pour un psy de sortir avec sa patiente, quoi.
Oui.
Et donc à la fin, dans le dernier épisode, il rappuie qu'il est pas cool avec, il respecte pas le fait que le gamin de Ted, il est passionné par le foot et que c'est important pour lui. Mais pour moi, cette scène, elle montre que leur couple, il est en train de finir, tu vois.
Oui, c'est ça.
Donc, il va peut-être pas être là très longtemps.
Oui. Et en fait, ça veut aussi dire potentiellement, je suis pas si sûr que ça qu'ils se remettent ensemble avec Michel.
Pas sûr, et je suis pas sûr que c'est ce que je veux pour eux, parce que je suis un peu en mode,
Il y a un raid.
Il y a un raid. Merci beaucoup, Mary. Mary qui était venue parler de The Last of Us avec moi plusieurs fois, qui avait fait mes débriefs The Last of Us. Merci, Mary. Merci, les Méros. Welcome.
Merci, les Mérios.
La Mary Compagnie, qui êtes-vous? Quel est
la Mary Family.
The more the merrier. Bref. Vous l'avez chez vous. Bienvenue. Nodus dit coucou. Je suis Mimi. Bienvenue sur ma chaîne où on parle de plein de choses. Alors, généralement, le programme, c'est lundi, on parle d'actu sur Reddit. Mardi, c'est aujourd'hui, on parle de série télé. Et jeudi, on fait du jeu vidéo. En ce moment, on est très évidemment sur Zelda Tears of the Kingdom. Et là, on est en train de parler avec Fabrice Florent, ici présent, créateur de podcast notamment, mais aussi streamer. Abonnez-vous à sa chaîne.
Oui.
Chino, si tu peux faire un petit shout-out à Fab dans le chat, s'il te plaît.
Et puis, on va refaire des streams, là.
Oui, on va refaire des streams. On va en faire un cool pour commencer, normalement. On est en train de le préparer. Et là, on est en train de vous parler série télé, on est en train de vous parler de Ted Lasso, du coup, une série qui vient de se finir sur Apple TV, qui est vachement cool, qui fait du bien, qui est très feel good, qu'on vous recommande, et qu'on est en train de spoiler. Voilà, on est en train de parler de la fin de Ted Lasso. Donc si vous ne voulez pas avoir les bails, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour revenir pour le prochain stream qui sera jeudi matin. Si vous voulez avoir les bails, restez avec nous, ça va être super. Alors, au sujet du coup du psy, qui est le nouveau compagnon de l'ex-femme de Ted, Traficote nous dit... Pour le psy slash copain, il est suggéré dans plusieurs scènes que ce n'est pas l'amour fou quand même. Et perso, j'ai trouvé ça malsain qu'ils soient ensemble. Il y a assez de monde sur Terre pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Indeed.
Ou qu'il trouve quelqu'un d'autre, parce que...
Aussi, oui.
En vrai...
Après, il y a toujours, tu vois, des histoires d'amour improbables qui des fois marchent. Donc, voilà, il ne faut pas dire non jamais, mais il ne semble pas être l'homme de la vie de Michel, ni un très bon
beau-père.
Beau-père, oui, ouais, voilà.
Je suis d'accord.
J'allais dire père de substitution et j'étais là. Non, ce n'est pas exactement le but, parce que Ted Lasso n'est pas mort. Donc c'est pas plus mal s'il sort de son salon petit à petit pendant cette scène de match, et c'est peut-être pas grave. Donc pour toi, le destin de Ted Lasso qui revient avec près de son fils et chez lui aussi,
pour moi c'est oui pour moi c'était écrit depuis le début, en fait. Tu vois qu'il allait revenir d'une manière ou d'une autre, où tu sens très bien que c'est une parenthèse dans sa vie, et que En fait, il connaît rien au foot. Et tu vois, certes, il en connaît un peu plus à la fin, mais il en connaît quand même beaucoup moins que sur le foot US.
Oui.
Donc c'est très marrant de
il
le voir.
Il en connaît pas assez pour un mec qui fait ce métier depuis des années quand même.
Après,
il devrait pas être fier de comprendre le hors-jeu après 3 saisons.
Il s'est délégué, tu vois.
Oui, oui, oui. Il sait dans quoi il est bon. Et c'est pas dans les règles du soccer, mais c'est dans toucher le cœur des gens. Mmh. Inspirer le cœur des hommes, finalement. Tel un elfe du... Allez, j'arrête. C'est trop. Et est-ce que sur le destin des autres personnages, il y en a qui te surprennent, qui te dérangent? Donc on a... alors, on peut peut-être parler de Rebecca, qui est quand même un des autres personnages principaux. Quid du destin de Rebecca?
Moi, j'adore le destin de Rebecca.
Ouais.
Où, effectivement, elle reprend pleine possession du club et, en fait, elle le kiffe et elle y va jusqu'au bout, quoi. Où elle tombe, par hasard, sur Gazelic.
Oui, Mr. Gazelic. Donc on l'adore, si vous avez... là. Oh my God,
c'est dans l'épisode Amsterdam cette saison où elle tombe littéralement à la flotte.
Oui.
Et en fait, ce mec est sur sa péniche et en fait, il passe une soirée et une nuit délicieuse.
Mais ils ne font pas, ils ne font pas la chose. Ils ne se demandent même pas leurs prénoms respectifs.
Bien sûr.
C'est si romantique.
C'est vraiment génial. Et franchement, pour moi, c'est pareil. Cette séquence-là, avec ce mec, est génial. Franchement, déjà les deux acteurs mais sont brillantissimes quoi. Tu t'es à fond dedans quoi.
Ah, le mec, il a un charisme et je veux dire Rebecca.
Rebecca, elle en impose.
On
en
impose Rebecca. J'ai envie d'être. Enfin, si quand je suis grande, je suis le 10e de la femme que Rebecca est, je serais déjà très fière de moi. Je n'aurais jamais sa taille car elle est vraiment immense. Je fais déjà le 10e d'une Rebecca par la taille. Je peux peut-être le faire par le charisme et la force et l'énergie.
Et donc ouais, je trouve ça cool. En fait, moi, je suis très heureux que Rebecca retombe sur ce gars de façon complètement par hasard. Et sans doute, on voit qu'elle s'adresse d'abord à la petite fille, parce que on ne sait pas que ce mec a une fille. C'est ça dans l'épisode
d'Amsterdam. On sait qu'elle a une fille,
On l'a pas vue parce qu'elle est avec sa mère ou je sais pas quoi. Et donc on comprend que peut-être en fait Rebecca va finalement devenir maman, plutôt belle maman.
Et oui.
Et en fait, trop trop bien. Franchement, ce couple-là, qui était naissant, tombé dessus l'un par hasard complètement l'un sur l'autre, j'achète, je prends tout.
Ok. Toi, ouais, pour moi, ça marche. J'ai des mini-réserves. C'est toujours compliqué pour moi de faire finir de façon significative un perso qui est là depuis le début avec un gars qu'on a vu littéralement 10 minutes. Il y a un peu pas d'arc, mais en fait... Je trouve que dans sa dernière saison, surtout Ted Lasso, c'est une série qui assume complètement que c'est quasiment magique, tu vois. C'est quasiment un monde féerique et il y a un peu un côté destin. Et en fait, à partir du moment où t'acceptes ça, bah, ça marche, tu vois. Ils se sont trouvés. Ils se retrouvent un peu grâce à Ted, puisque c'est en accompagnant Ted à l'aéroport qu'elle tombe dessus. Ils avaient déjà posé que le mec est pilote. Genre, les chances que ça arrive, minuscules. Scénaristiquement, on n'a pas beaucoup vu ce gars. Ok. Mais est-ce que j'étais fâchée?
Non.
Non. Pas du tout.
Parce que c'est Monsieur Gazelic.
Pas juste parce qu'il est BG. Parce que c'est Monsieur Gazelic et que Rebecca mérite du Gazelic dans sa vie.
Tout à fait.
Traficote nous dit, concernant cette fin, la scène sur l'équipe de foot féminine, est-ce que ça annonce un spin-off?
Alors oui, il y a Kiwi.
Vient proposer à Rebecca le Richmond Women's Soccer Club. Spin-off ou pas?
Bah,
à ton avis.
Si y a spin-off, je prends. Hein, parce que spin-off avec Rebecca et Kiwi en rôle principaux. Moi, j'achète. Hein.
Sur une équipe de footballeuses.
Avec des footballeuses écrites, on imagine, dans la même veine que sont les personnages principaux de globalement toute cette série. Tous les personnages principaux de cette série sont canons, quoi.
Ben oui.
Il y en a pas.
C'est un bel ensemble.
La meuf de Nathan, là, Jade, qui au départ, elle est un peu insignifiante et elle est là.
Elle est vaguement désagréable.
En plus, elle s'avère être ultra cool dans la fin de la saison, quoi. Donc trop trop bien. Franchement, non, je prends le spin-off avec grand plaisir.
Ok. Je peux vous dire qu'aucun spin-off n'est confirmé, que ça a été reconfirmé, que rien n'est prévu, mais que rien n'est off the table non plus. Mais le discours officiel de l'équipe de Ted Lasso, c'est on se repose. Je pense qu'il y avait aussi un truc de on attend de voir la réception de cette fin et tout. Effectivement, c'est une porte qui n'est pas fermée. On a aussi, ça peut peut-être faire une transition. On a aussi Roy Kent qui devient manager. Pourquoi pas une saison sur Roy Kent qui coach l'équipe, finalement. Enfin,
oui.
À ce moment-là, il y a plusieurs portes qui sont pas fermées pour des spin-offs, mais il faut qu'il y ait l'envie du côté de l'équipe et, du côté des fans. Est-ce qu'on a envie de retourner à Richmond? Oui. Mais, comme c'est bien, vous n'êtes pas non plus obligé d'y retoucher, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas rouvrir un dos et plutôt ouais voilà que ça se termine bien quoi. Faut savoir bien terminer je trouve. Et oui. Globalement cette série elle est bien terminée.
Voilà.
Parlons de Killy aussi qui a
oui.
qui a une fin assez géniale je trouve parce que
alors, Killy même sur toute la dernière saison elle a son propre
elle a un
arc
génial.
Il y a un arc pro principe enfin pro et un peu amoureux. Mais quand même dans les premiers épisodes c'est vraiment Killy qui galère avec son équipe avec Barbara qui est pas sympa avec ses employés qui lui parlent pas.
On comprend pas trop en fait. Pourquoi elle se retrouve dans cette boîte et pourquoi elle a pas la main sur les décisions dans sa boîte?
Oui, sur qui est embauché aussi.
Voilà, en gros, c'est pas elle la bosse quoi, tu vois, et on comprend pas trop pourquoi au départ et en fil de long, on finit par comprendre, on finit par découvrir cette meuf qui s'appelle Jack donc il y croyait qu'elle était un mec. Alors que c'est son investisseur principal, what the fuck, mais bon, bref.
Alors ça, j'ai vu des trucs qui disaient, en gros, ça se fait, enfin, Jack, elle a l'air d'être dans un truc qui a énormément d'argent.
Ah oui, c'est un
En fait,
c'est
t'es
un
une petite boîte de pierre, alors avec un peu quand même de clout, puisque t'as eu un financement et tu manages Richmond, qui a eu un financement par une grosse boîte qui est mécène de d'autres petites boîtes. En fait, oui, le founder, il va pas rencontrer tout le monde en tête-à-tête, tu vois, donc,
bon.
Ou la founder.
Ça, j'y crois peu, mais bon.
Qu'elle n'ait pas googlé, Killy, je suis là, girl.
Oui.
Tu devrais avoir une idée du physique de la personne, quoi.
J'ai des amis très proches qui ont été vraiment déçus de voir Killy tomber entre les mains de façon aussi simple, amoureuse de cette meuf, alors que rien n'indiquait auparavant qu'elle avait eu des histoires avec des nanas et tout. En tout cas,
Si, c'était pas nouveau que Killy, elle est bi. Il y avait des larges. Elle parle souvent à Rebecca de. Elle fait très souvent des compliments physiques à Rebecca.
Oui, mais ça.
Mais en fait, les gens, ils le prennent comme du girl talk. Mais je suis là. Des fois, juste. People are gay, tu vois. Genre.
Okay,
ça,
okay.
Et aussi, je trouve qu'il y a une différence un peu entre les compliments qu'on se fait entre meufs hétéros. Enfin, je sais pas. Il y avait une vibe.
Ok.
Et il y a plusieurs scènes où c'est, je sais pas, à un moment, quelqu'un. Genre, c'est peut-être Rebecca qui lui fait une vanne en mode. Ah bah dis donc, ce sera peut-être la première fois avec une fille et Killy elle est là genre comment ça la première fois. Enfin,
ah, okay.
C'est admis qu'elle est pas.
Il faut que je le revoie.
C'est pas admis. Effectivement, on l'a jamais vu avoir une histoire avec une femme avant, mais c'était pas un plot twist de fou quoi.
Mais effectivement, le fait qu'elle tombe aussi vite dans le panneau et qu'en fait elle tombe amoureuse de cette meuf, etc. C'était ok, c'est chiant en fait, mais on va voir un petit peu comment elle se démène avec tout ça. Et effectivement, elle finit par bien s'en sortir, reprendre son indépendance totalement en fait, et voire même ne pas finir ni avec Roy ni avec Jamie. C'était un peu un truc attendu, quoi, tu vois, avec qui elle va terminer. Est-ce qu'elle va juste terminer
le fameux triangle amoureux
all by myself. Et en fait, ça
si
se termine comme ça.
Elle va choisir Edward ou Jacob. Ah là là, on ne sait pas. Et au final, elle choisit sa boîte et sa vie et ses potes et de pas être avec des mecs qui lui disent choisis aussi ce qui est peut-être la première relation.
Et tu vois, je suis d'accord, Traficote en fait.
Alors Traficote nous dit j'ai trouvé ça un peu maladroit, sa relation avec Jack, beaucoup de moments très cringe qui passent ensuite pour du romantisme. Par contre, l'épisode sur le leak, très bien, j'aurais juste aimé une conclusion plus frontale peut-être.
Moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça permet de pouvoir parler des love bombs, c'est-à-dire que globalement Rebecca lui donne aussi une petite leçon de vie, quoi, tu vois, sur, bah, en fait, elle est juste en train de t'envoyer des love bombs à la gueule. Et je trouvais que c'est vraiment cette image de love bomb est géniale parce que je sais pas, c'est un vrai truc.
Ah oui, c'est un vrai truc. Okay, le love bombing, tu sais, ça fait partie de tous ces termes, genre le ghosting, le breadcrumbing, le gaslighting, qui sont des termes qui ne veulent pas rien dire, mais qui sont parfois surutilisés dans les articles de la presse web actuellement. Mais du coup, oui, le love bombing, j'avais l'info.
Et j'avais trouvé ça super de pouvoir en fait utiliser cette relation pour finir par parler de ce concept que alors moi pour le coup j'ai découvert et j'avais trouvé ça et globalement en fait je trouvais ça d'autant plus cool que ça lui permettait de s'affirmer.
Oui, et ça permet, je trouvais que c'était, moi j'ai bien aimé ce que ça a créé dans leur relation avec Rebecca, où Rebecca elle est dans cette position un peu bâtarde de elle est passée par une relation similaire, donc elle voit des signes, en même temps elle veut pas être la meuf parano qui gâche le bonheur de son amie parce qu'elle est là-bas, il y a des signes, ça veut pas dire que, donc elle essaye à la fois de l'informer, de la prévenir, de lui donner des conseils de prudence et en même temps de lui dire mais tu sais quoi, garde l'esprit ouvert, laisse-la, peut-être qu'elle va te surprendre ou surprendre et tout.
Une
et c'est rare de voir
une vraie relation d'amitié quoi.
Ouais voilà, et d'avoir aussi une femme un peu plus âgée qui elle est passée par plus de choses et qui essaye un peu que ces galères aient pas servi à rien, tu vois, que ça apprenne aussi à des meufs plus jeunes de pas tomber dans le panneau. Et en même temps, faut quand même se prendre un peu la porte pour plus avoir envie de, enfin, tu vois. Elle dit pas à Killy, quitte là, ça sert à rien. Elle la laisse se prendre le mur de, bah, elle était pas cool. Mais maintenant, tu le sais. Et si t'étais partie plus tôt, tu l'aurais pas su aussi Là, tu le sais dans tripes, quoi.
Là, elle le sait dans ses tripes, effectivement. Et ouais, je suis d'accord, Arnaud. C'était une situation toxique avec Jack. C'était intéressant comme sujet. C'est trop cool qu'ils mettent en place cette situation-là à la base, qui est un peu énervante sur le moment où tu dis, ok, mais pourquoi elle l'embrasse aussi vite? Bah, juste parce qu'en fait, c'est Killy, quoi, tu vois, et que je crois qu'elle a besoin. En gros, globalement, son truc, c'est j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on m'aime, et puis à la fin, non, finalement, je me démerde toute seule, quoi.
Oui, et puis je pense qu'il y a un peu, surtout que pour toi, t'avais pas en tête que Killy est pas forcément hétéro. Bah oui. Je pense que si Jack avait été un homme, il y a un peu un truc de, il y a un personnage féminin célibataire qui rencontre un homme riche et puissant et célibataire et un peu beau gosse, on se serait plus attendu à, tu vois, ils sont tout seuls au bureau le soir, genre ils vont se pécho. Et là, comme c'est deux femmes, si t'as pas en tête Killy, elle aime aussi les femmes, ça peut sortir encore plus de nulle part de, ah oui, on fait ça, quoi. Et puis aussi, bah, c'est pas sa boss, mais il y a quand même un truc.
Bah oui. Bah,
d'ailleurs, elle finit par couper le financement, ce qui est.
Ce qui dit, ce qui en dit long.
Non. Traficote nous dit, je suis d'accord pour le love bombing, mais à la fin de l'épisode, il semble y avoir une rédemption quand elle s'excuse juste après le coup du leak. J'attendais peut-être moins de nuances de gris dans cette relation. Oui, Traficote qui nous disait, j'aurais aimé une conclusion plus frontale. Ouais. En effet, il n'y a pas de confrontation finale entre Killy et Jack. Et, mais Jack, la ghost, elle se barre en Argentine et tout. Et je suis là, bah, des fois dans la
c'est
vie. Puis bon, c'est aussi, ça a duré quelques mois, quoi. C'est pas comme Rupert qui a vraiment gâché une bonne partie de la vie de Rebecca. Et qu'il a peut-être un peu privé de sa possibilité d'avoir des enfants parce qu'il, je crois qu'il l'a un peu fait mariner là-dessus avant de lui dire en fait non.
Ouais, ce serait assez, même si c'est clair, c'est pas si clair que ça, mais elle le mentionne, je crois, à un moment donné. Ouais.
Donc voilà, c'est pas non plus la relation la plus importante de la vie de Killy, mais c'était pas inintéressant de la montrer. Toi, t'as bien aimé cet arc start-up ?
Oui, non. En fait, moi, je trouvais ça cool que Killy ait sa boîte et que effectivement, elle se retrouve au départ chez elle, mais en même temps pas chez elle. Et ça en dit assez long sur ce personnage qui passe son temps à se battre pour son indépendance. Et finalement, elle finit par avoir son indépendance aussi à travers sa boîte. Alors qu'au départ, elle était peut-être une sensation de liberté. En même temps, bah, pas du tout. En fait, t'es ultra enfermé. T'as cette meuf là qui est ultra chelou. Qui
chelou
te...
Barbara.
Bah ouais. Et puis en plus, plus on la connaît, plus on comprend qu'en fait, elle est chelou.
Elle est vraiment chelou, Barbara.
Voilà. Avec, voilà. Et... en fait, tu te retrouves avec une meuf qui prend des décisions pour toi. En fait, c'est ma boîte, va te faire foutre, quoi. T'es qui, toi, d'où tu sors? Et effectivement, en fait, elle a été posée là par les investisseurs pour qu'elle la babysitte, quoi, finalement.
Oui, c'est la CFO, c'est la directrice des finances. Donc, bah, c'est en mode, t'es mignonne avec tes idées gamines, mais les grands, ils vont te dire où on met l'argent, quoi.
Ouais.
Mais d'ailleurs, à la fin, je l'ai pas chopé quand j'ai vu l'épisode, je l'ai vu sur Reddit. Dans la fameuse séquence où on voit un peu que sont-ils devenus du dernier épisode, le logo de KGPR, donc la firme de Killy, c'est KBPR. Donc a priori, elle a pris Barbara en partenaire.
Ouais, bien sûr.
Et je sais pas si ce personnage, il a 100% marché sur moi. C'est-à-dire que je suis quand même en mode, j'ai pas envie de traîner avec Barbara. Elle est quand même trop chelou. Même vos moments mignons, elle est trop chelou. Mais... elle veut lui racheter la boule à neige. Elle lui dit j'ai besoin de ticket de caisse. Après, elle est là, j'aime pas le foot. Alors, son côté, j'aime quand il y a du sang, hilarant. J'étais vraiment MDR, mais j'étais... est-ce que j'ai envie de la faire partenaire de ma boîte et de la voir tous les jours? Je ne sais pas.
Ouais, après, c'est...
mais pourquoi pas.
C'est dans une association, parfois, t'es pas obligé de devenir meilleur ami avec les gens. Tu peux juste être très complémentaire et faire en sorte que ça marche bien entre vous. A priori, on a compris que c'était plutôt une meuf qui était plutôt complémentaire du côté
c'est
créatif.
C'est une lettre de chiffres.
Voilà, c'est ça, de Killy.
Clairement.
Jamie,
on a parlé de Killy, parlons des deux hommes entre lesquels elle a refusé de choisir parce que c'est des idiots, mais c'est pas grave, ils sont mignons. Roy Kent, Jamie Tart. Bon, on va commencer par Roy parce qu'on va parler un petit peu aussi de sa carrière pro puisqu'il finit coach de l'équipe. Qu'est-ce que t'as pensé de tout l'axe de Roy dans cette saison, qui est à la fois cette rupture avec Killy, on en parlait avant l'épisode, on la voit pas. La saison commence, ils sont séparés alors que c'était un couple qui avait l'air d'aller bien. Donc il travaille là-dessus, il travaille sur son rapport à lui, il s'intègre un petit peu plus dans l'équipe, dans son rôle de co-coach et dans peut-être les Diamond Dogs, on espère. Donc il a quand même un petit côté thérapie, même s'il va pas chez la psy. Et puis là, son amitié avec Jamie, bien sûr, qui se développe.
Enfin, pour moi, c'est vraiment le meilleur arc de toute la saison, quoi. Cette relation entre Jamie et Roy, où on comprend au fil de l'eau qu'en fait, Jamie au début de la... En fait, moi, si tu m'avais dit au début de la saison 1 que j'allais devenir fan de Jamie à la fin de la saison 3, j'aurais fait non mais ok, mais
si, va falloir. C'était sûr.
Mais bien sûr, mais
enfin, il y avait Sawyer de Lost. Tu l'as t'es là, oui, je le déteste, mais avait... je l'aime déjà.
Ok, mais il y avait du chemin quoi.
Oui.
Tu vois vraiment parce qu'il était Jamie détestable au possible.
Tu sais que comme je suis une personne child free. Je ne savais pas que c'était la chanson de Baby Shark.
Mais enfin,
j'ai connu cette chanson. Pour moi, c'était la chanson de Jamie Tartt. Et après, non, j'ai su que c'était Baby Shark.
Baby Shark, genre des milliards de vues, quoi.
Mais c'est je ne fréquente incroyable. Pas d'enfants, ni de vidéos YouTube pour les personnes de moins de 3 ans.
Moi non plus, je fréquente pas d'enfants, mais en fait, Baby Shark, c'est vraiment énorme, quoi.
Sorry, je n'ai jamais vu un épisode de Peppa Pig non plus, ni de Pat Patrouille.
Bravo. Mais effectivement, le, en fait, la relation entre Roy et Jamie, je trouve que. En fait, elle commence pour moi vraiment quand on en parlera peut-être un peu après, mais pour moi, ça fait partie de mes meilleurs moments de Ted Lasso, c'est quand Jamie se fait bolos par son père à Wembley là après le match dans c'est fin de saison 2 hein, si je me trompe pas. Et en fait, Roy vient lui faire
tous ses coéquipiers dans le vestiaire et tout.
Et Roy vient lui faire un câlin venu de nulle part de la part de Roy.
Parce qu'il se déteste à ce moment-là.
Bien sûr. Et en fait, on comprend que Roy va développer une relation de grand frère en fait pour ce mec parce qu'on peut s'imaginer qu'ils ont genre 15 ans d'écart quoi, tu vois, entre le début et la fin d'une carrière, parce que on comprend que Jamie il est au début, il est au tout début de sa carrière quoi, là où Roy est plutôt sur la fin. Donc ouais, on comprend qu'ils ont 10-15 ans d'écart, plutôt 15 que 10. Et effectivement, Roy prend ce rôle de grand frère qui va tirer en fait tout au long de la saison, notamment pour faire en sorte d'entraîner Jamie. Et la, oui, la fin. En fait, pour moi, c'est vraiment les deux persos qui évoluent le mieux, quoi. Tu vois, dans la série et qui sont les plus attendrissants et qui illustrent le mieux la masculinité fucked up au début de la série, dans la saison 1 notamment. Chacun avec à des niveaux différents. Là où Jamie est un petit con. Un but de sa personne et insupportable avec les femmes, etc. A
sexy babe.
Oh là là. Fuck you. Et où Roy est plutôt genre un bloc de granit, quoi. Tu vois, une brute épaisse qui veut surtout pas faire appel à ses émotions ou quoi que ce soit. Et je trouve que les deux finissent par se faire du bien l'un à l'autre, en fait. Tu vois. Et pour moi, c'est tellement chouette de voir ces deux gars-là se rapprocher dans cette série. Moi, ça m'a fumé, hein, moi, les moments Roy
quand
Jamie.
J'ai compris que Jamie Tartt allait apprendre à Roy Kent à faire du vélo, je pense que j'ai poussé des hurlements que mon corps ne pouvait pas produire avant. Ça a débloqué une forme de corde vocale qui n'existait pas auparavant. Et je suis d'accord avec toi, je les aime tellement. Et je pense que tu vas en parler du fait qu'on voit moins Ted dans cette dernière saison. En vrai, et je dis ça avec tout l'amour que je lui porte, il m'a pas tant manqué. Parce que il y a tellement de personnages qu'on a vu fleurir derrière et qui là ont la place de
s'épanouir. C'est qu'en fait, pour moi, Ted, il fait le taf saison 1, saison 2, pour faire en sorte que les autres prennent la suite après.
Il est là dans ce qui se passe.
Exactement.
C'est vraiment l'anti-succession. Parce que dans Succession, il y a un moment où Logan, il est moins là, mais il est quand même beaucoup là.
Bah, le poison.
Voilà. Et là, c'est l'inverse. C'est je sais pas, les bons gènes.
Oui.
Les bons gènes se transmettent.
Les fleurs. C'est les fleurs pour moi. C'est vraiment.
Oui. Le pollen, ça
pousse, quoi.
Tout à fait.
Alors, tu sais que Jamie, quand il apprend à Roy à faire du vélo, moi, je me suis vraiment retrouvé parce que j'ai appris à mes deux enfants à faire du vélo et c'est exactement les mêmes doses. C'est-à-dire que en fait, c'est génial parce que vraiment, je me suis dit, OK, il se retrouve exactement dans la même situation, sauf avec un mec de 40 ans qui doit faire 80 ou 90 kilos, tu vois, à lui apprendre de la même façon. Parce que ce fameux plan, tu sais, où tu fous ta gamine sur le vélo, tu lui dis, mets tes pieds sur les pédales et vas-y, avance. Et en fait, elle avance pas du tout et elle tombe comme ça. Bah, ça, je l'ai vécu. Et en fait, je me suis dit, imagine, c'est marrant avec tes enfants, tu vois, parce que tu les rattrapes et tout. Là, vraiment, le mec, il s'écrabouille la gueule. Et forcément, tu vas pas le rattraper, le gros, là, tu vois.
Tu peux pas en dessous, non?
Bah, non.
Mais sinon, super, Roy Kent.
Bah ouais.
Jamie Tartt.
Je m'attendais pas à ça, putain. suis tellement deg.
Faites un clip, s'il vous plaît, comme ça je me rappellerai de faire un extrait de ce moment et de le mettre sur internet.
Je suis tellement dégoûté, putain.
Mais Puik Puik Macumba aussi, parce que Puik Puik Macumba est à Paris jusqu'au 17 et ensuite rentre à Nice, alors que c'est le 21, le truc de
près. Non, mais Puik Puik, t'as une vie, reste à Paris.
Reste à Paris, c'est qui a besoin d'aller au travail, on cheat, tu vois, c'est pas grave. Reste à Paris, tu dis, il y a Roy Kent.
Moi non plus, j'y vais pas. Darvec, je suis désolé pour toi, mais moi, la plupart du temps, je travaille et à Paris.
Oui.
Et là, j'y suis pas, quoi.
Oui. C'est un peu raté Taylor Swift pour nous, vous voyez.
Et le lendemain, j'y suis. C'est-à-dire que si ça avait été le 22, j'étais là. Le 23 aussi, je suis là. Le 24 aussi, je suis là. Le 25 aussi, je suis là.
J'allume l'alarme incendie, comme ça on sort et il redécale au lendemain et tu viens. Je ferai ça pour toi. Vous le dites pas sur le chat, je crois que c'est illégal. Je ferai ça pour toi. C'est très illégal.
I am going to send a message to Brett.
Hello,
asking
Brett.
Him.
Do you want to story of success?
Can you come?
Non, mais histoire de mec.
Can you come
Brett.
Later?
Et en vrai, par contre, il est à Paris, peut-être le lendemain. Tu fais des interviews. Tu as compris. Je vais en venir. Bientôt, histoire de mec avec Brett Goldstein, alias
Roy. Hi, Roy!
Hi, Roy! Donc, pour revenir, pardon, reprenons le cours normal de ce déroulé. Coucou Guetuliel qui nous dit j'ai quitté le repas précipitamment pour assister à ce live déjà légendaire.
Coucou Guetuliel,
tout le monde fait des trucs précipitamment ce soir.
J'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre.
J'habite au 6ème, je ne vous le recommande pas. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Jamie et Roy, c'est peut-être ceux qui ont l'évolution la plus cool à regarder. Je trouve que c'est aussi très chouette parce que donc ils montrent une masculinité. En fait, c'est des mâles alpha,
oui.
Mais qui finissent avec une masculinité plus positive sans devenir moins mâle alpha. Alors,
sans
j'aime pas ce terme.
Des PD, tu veux dire ?
En tout cas, pas
désolé.
Sans perdre des points dans la hiérarchie sociale des mecs, tu vois. Ils
et
sont toujours Jamie fucking
et dans leur
Tart
masculinité.
Et Roy fucking Kent. Et ils sont toujours des gars.
C'est ça.
Qui ont du succès avec les meufs, qui sont assurés et tout, mais ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes. Et les premiers personnages qu'on voit bosser là-dessus dans la série, les Ted Lasso, les Coach Beard, c'est quand même des mecs super, mais c'est pas des mâles alpha,
oui.
Tu vois, comme Roy Kent, où vraiment quand ils rentrent dans une pièce, tout le monde est là.
Tout le monde, tout le monde se tait.
Oui. Donc c'est encore plus cool de montrer que tous les mecs peuvent, tous les gens, mais tous les mecs, parce que dans Ted Lasso, il y a beaucoup d'hommes, hein, c'est une équipe de foot, ce n'est pas encore mixte, le saviez-vous, que tous les mecs peuvent devenir des meilleurs mecs sans se départir de qui ils sont.
Pour moi, c'est l'un des trucs qui fait partie, en fait, qui fait peur aux mecs dans tout ce qui est ouverture à la masculinité positive ou la masculinité consciente. Je préfère parler de masculinité consciente parce que...
Oui, positive, négative,
toxique, en fait, ouais. C'est chiant, vraiment, j'en ai marre, parce que ça voudrait dire que, en fait, être un mec, c'est toxique. Fuck you, tu vois, vraiment. Et
oui.
En fait, tout comme on a des tas de facettes en nous, et c'est hyper important de les regarder tout en face, tout comme, en fait, y a des tas de facettes positives chez les meufs qui sont et d'autres facettes négatives, on est tout ça, tous ensemble. Donc, en fait, vraiment, parler de masculinité toxique, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc, je préfère parler de masculinité consciente. Et pour moi, l'un des trucs qui fait peur chez les mecs de s'ouvrir, en fait, à une masculinité plus consciente, de s'ouvrir à leurs émotions, etc., c'est qu'ils perdraient des points, et en fait c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a une homophobie latente derrière qui est toujours présente, de en fait tu vas devenir une meuf, tu vas devenir plus féminin, tu vas devenir moins masculin, moins testostéroné, tu vas aussi devenir potentiellement un homosexuel, on va te retirer entre guillemets
et de l'homophobie,
exactement, tout ça derrière, alors qu'en fait bah non, tu peux faire les deux, tu peux t'ouvrir à plus d'émotions et au contraire en fait être un mec encore plus puissant.
Et oui,
parce que la vulnérabilité, vous savez quoi,
ça ne
rend
pas
fort.
Faible, tout à fait. C'est marrant, on a dit la même chose, mais dans deux
sens.
Bah
oui, moi je préfère le tirer de façon positive.
Oui, je me dis que je m'adresse aux gens qui ont peur que ça les rende faibles, tu vois.
Mais
du coup, je dis,
donc au contraire, ça rend fort.
Plus de ne pas rendre faible, ça rend fort, c'est les deux. Il y a des gens, et quelqu'un l'avait amené dans le chat, mais du coup entre temps on a crié, donc j'ai perdu le pseudo, qui ont été un peu déçus de cette scène du final où Roy et Jamie justement se battent pour. Les faveurs de Killy et vont jusqu'à aller chez elle lui demander t'as qu'à choisir.
Mais c'est trop bien,
qui ont
au contraire.
Vu ça comme une régression de en fait c'est digne de eux qu'ils étaient avant, du coup pourquoi ils refont ça, qu'est-ce que toi t'en dis?
Parce qu'en fait au fond c'est aussi une facette de leur personnalité, c'est-à-dire que ils ont ça aussi en eux, ces deux mâles alpha comme tu le disais tout à l'heure, et en fait il est possible qu'ils retombent dans leur connerie, qui se battent et après qu'ils en aient honte parce qu'ils sont là, on avait vraiment été complètement nuls, on n'est pas très fiers et tout, et après ils vont jusqu'au truc de en fait meuf départage-nous quoi, tu vois,
dis-nous lequel tu préfères.
Et en fait moi je trouve pas ça du tout régressif, au contraire je trouve que c'est cool parce que ils l'assument, qu'ils sont vraiment là-dedans, ils arrivent à être l'un à côté de l'autre et à continuer à s'aimer même après s'en être foutu plein la gueule, parce que c'est aussi ça, une partie de la masculinité. Il y a aussi de la violence derrière, et je trouve ça bien de le montrer. Et que, en fait, ouais, il y a de l'ego, et en fait, c'est aussi des mecs en chemin. Ils vont pas devenir le Dalai Lama du jour au lendemain, quoi. Tu vois, deux secondes. Donc ouais, ouais, bien sûr. Et moi, je trouvais ça trop bien. Et au contraire, que Kylie, après, elle les envoie boulax. C'est trop cool, vraiment. J'ai trouvé ça parfaitement écrit, quoi.
Oui, pour moi aussi, ça marche bien. Et c'est littéralement dans l'épisode, du coup, ensuite, Roy accepte de devenir un Diamond Dog et dit au Diamond Dog, bah, j'ai essayé de changer. Le truc, quand il se parle en chien, genre, après vous. et en fait, il leur dit, j'ai essayé de changer, mais je suis quand même toujours moi. Ils disent, mais devenir meilleur, c'est pas changer qui on est, c'est rester soi. Et c'est ça, quoi. Ils restent eux. Et comme tu dis, en plus, la thérapie et même en général le chemin vers ce qu'on appelle le développement personnel, mais en gros le chemin vers une version de soi plus alignée avec qui on est, il est pas linéaire. Il y a des boucles, il y a des retours en arrière, surtout quand il y a des moments stressants et des. Tu vois, Roy, il a réglé plein de trucs, mais il a peut-être pas encore réglé son problème avec son rapport aux meufs et au romantisme et à la vulnérabilité en amour.
Et à la violence.
Et à la violence. Et à la compète avec Jamie, parce qu'ils ont aussi cette compète entre eux qu'ils ont depuis le début, depuis qu'on les a découverts. Donc parfois, ils sont bêtes et ils se castagnent dans un coin pour une meuf. Et ça veut pas dire qu'ils ont pas avancé.
N'oublions pas que dans déconstruire, il y a détruire.
Oui.
Et qu'en fait, avant de reconstruire, il faut d'abord détruire. Et en fait, détruire qui on a été, le mec qu'on a été pendant des années, etc., ça passe par un chemin qui est potentiellement très long. Et de reconstruire, une fois que c'est tout rasé, bah, ça nécessite aussi de remettre des briques parfois où, bah, ok, en fait, on a des anciennes briques d'avant, quoi. Tu vois, et que peut-être que ces briques-là, bah, on n'a pas vraiment envie de les avoir comme ça. Peut-être d'un autre côté, peut-être machin. Enfin, tu vois, et il y a plein d'ajustements. Et en fait, j'aurais trouvé ça trop manichéen de les faire se transformer justement en mec ultra conscient comme ça du jour au lendemain. Parce que, en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Et que parfois, t'as beau être ultra conscient, tu fais de la merde. Et c'est très bien, quoi. Même le Dalai Lama, il fait de la merde, quoi.
Alors oui, récemment, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais...
T'as su cette histoire. C'est qu'en fait, c'est un truc culturel, quoi.
Pas vraiment.
Mais
pas
j'ai lu vraiment. Ça.
Oui, pas vraiment.
Ah, c'est des lectures.
Bah, c'est pas normal au Tibet de sucer la langue d'un enfant de 6 ans, quoi. C'est pas genre comme ça qu'on se dit bonjour. C'est pas normal, c'est pas culturellement
j'ai lu
normal.
Gens qui, j'ai lu d'autres
c'est
gens qui
pas
disaient...
C'est pas assez full pédo, mais c'est pas...
Bah, j'ai lu d'autres gens qui disaient, c'est vraiment une sorte d'ethno...
C'est la défense
d'oxydotalocentrisme.
Du RP du Dalai Lama, tu vois.
Ah ouais,
C'était innocent et tout, machin.
Je t'avoue que moi, j'ai lu les deux trucs et je me suis dit, ok, bon, la vérité est sans doute entre deux.
Voilà, la vérité est sans doute entre deux. En fait, c'est aussi... Dans cette saison, on a Jamie qui essaye de se débarrasser de son arrogance, mais qui s'en débarrasse tellement qu'il n'arrive plus à performer sur le terrain et qu'il a perdu... I've lost my wings, Roy. Wow, my wings, Roy. Il a perdu ses ailes comme le monsieur Red Bull. Et en fait, Roy, et l'intégralité de l'épisode lui apprend, regagne ton arrogance. On a besoin que tu puisses être un petit con. On a juste besoin que tu le sois pas tout le fucking temps, que t'aies d'autres modes.
Bien sûr.
Et bah, c'est aussi, voilà, ils ont besoin de cette... compète qu'ils ont entre eux et qu'ils ont en eux aussi et de ce rapport un peu de parfois de se battre pour ce qu'on veut. Ce n'est pas pour l'amour d'une meuf que c'est le bon endroit où utiliser cette violence et cette envie de conquérir, mais ils ont essayé et ils se sont rendus compte que ça marchait pas, quoi.
Et tu vois, il y a un an environ, j'étais allé voir ma psy en lui disant, putain, j'ai un peu de mal à trouver ma place de mec et tout, en sortant de Mademoiselle, où dans lequel j'ai baigné pendant des années, j'ai baigné dans un environnement très féminin. L'un des trucs qu'elle m'a dit, c'est retrouve des trucs où tu mets en place de la compétition, où tu mets en place l'envie de gagner et l'envie d'y aller et tout,
mis à LOL.
Ouais.
C'est ton clavier.
Exactement. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était un truc que j'avais en moi beaucoup, très fort, et que j'ai un peu. Et notamment chez Mademoiselle, mis un peu de côté parce que c'était un truc qui n'était pas très bien vu dans la culture Mademoiselle, la compète.
Oui.
On en a longtemps parlé.
Oui, et c'est pas, par exemple, moi je marche pas à la compète, tu vois.
Alors que pour moi, c'est un driver énorme et c'est aussi un driver masculin, entre guillemets, avec plein de guillemets, quoi, d'aller vers la performance et vers l'action et vers machin, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Chacun me prend. Beaucoup de love sur le chat pour Ted Lasso. Gaetuliel nous dit « J'ai tellement aimé cette série, elle est douce dans tous ses aspects. L'écriture des personnages est si réussie, leurs évolutions sont géniales. » Et la vulnérabilité, ça plaît, c'est F. Kelly. Puisque rappelons
ça plaît aux meufs, bien sûr.
Kelly aime se toucher sur des vidéos de Roy qui est ému et qui pleure, quoi. Ce qui est meilleur van. Franchement, oui. Hands down, relatable, meilleur van, ça marche très bien. Et Traficote nous dit « J'ai mis très longtemps à regarder, n'aimant pas le foot, ayant des préjugés sur tant de choses sur la masculinité, et ils arrivent à faire quelque chose de positif, rafraîchissant, plein d'espoir et de force. Vraiment heureuse que cette série existe. » Tout à fait. En parlant de d'arc parfois pas simple et de ça prend du temps de devenir la meilleure version de soi-même, etc., quid de Nate ?
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Qui est peut-être le perso qui a le plus de...
Ah lui, il a des hauts et des bas.
Rebondissements,
hein.
Ouais, de haut, haut et de bas, très bas, quoi.
Nate, il est... En fait, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Nate. Parce que tu comprends que le Wonder Kid, en fait, tu comprends d'où il vient quand tu rencontres son père.
Oui.
Et quand tu rencontres alors ses parents d'une manière générale, mais surtout son père, qui est ultra dur avec lui, qui est ultra exigeant. Il est d'origine, on ne sait pas trop en fait, mais...
D'Asie du Sud-Est, ouais, mais voilà. Je ne sais pas si on a le pays précis.
On sent qu'il a vécu...
Inde, Pakistan, Bangladesh,
oui.
Par là, quoi.
On sent qu'il a vécu dans une culture qui fout un peu la pression sur « il faut que tu réussisses, mon garçon ». Et son père, on sait pas trop ce qu'il fait, mais on imagine qu'il a plutôt un poste assez... Enfin, je sais pas, assez important. Je sais pas pourquoi,
ouais,
mais je l'imagine comme ça.
Ils ont une maison chou, tu vois, leur resto préféré, c'est le resto grec. Alors, c'est pas un 3 étoiles, mais c'est pas non plus le tacos d'en bas, quoi. Oui, je pense que c'est son classe moyenne.
Et en fait, Nate, tu comprends très vite qu'il projette sur Ted... clairement une figure paternelle, quoi, et que Ted il a un rapport avec lui qui est qui est en fait très sain, je trouve, parce que il l'aide quand il veut, quand il faut l'aider, et donc il le promeut, il le met en confiance, etc. Et en fait le bon Nathan, il passe son temps à vouloir être en conflit avec, là où Ted ne laisse aucune prise. Ça ne marche pas, tu n'arrives pas à être en conflit avec. Et en fait, je crois que pour Nate, c'est très compliqué de se retrouver à boxer tout seul dans le vide, quoi. Si bien qu'il finit par craquer et par notamment le balancer à Trent, à
qui fait des
Trent Crimes,
de Trent Crimes Independent.
The Independent.
Oui, il révèle que Ted a fait des crises de panique.
Il avait pas juste mal au ventre, un peu la diarrhée. Juste, en fait, il faisait des crises de panique de ouf, quoi. Et en fait, je trouve que il s'en sort bien entre guillemets sur la fin, c'est-à-dire que on comprend très vite que il va tomber dans une relation père-fils très toxique avec Rupert au départ, parce que sans doute il vient rechercher ça un peu auprès de Rupert, et que Rupert il est horrible. Et notamment quand il voit qu'il est en couple avec Jade, il l'invite à une soirée avec
deux escortes, clairement pour tromper sa meuf, hein.
Voilà, et donc pour le foutre lui aussi dans une sauce où potentiellement il a des doses sur lui,
oui,
pour peut-être le faire chanter. Enfin, en tout cas,
bon,
moi je l'ai vu
fois,
comme ça. Hein.
Moi je l'ai vu comme à la fois l'introniser dans le club des sales types et valider que on est tous des raclures, tu vois. Je pense que les mecs comme Rupert, ils ont, mais un peu comme les gens dans Succession parfois, ils ont besoin de se persuader que tout le monde est au fond une mauvaise personne et que Tout le monde, s'il avait l'occasion de tromper sa femme avec une escorte de 22 ans, il le ferait, tu vois. Et mais je pense qu'il y a aussi l'angle comme ça, j'aurais du pouvoir sur toi, effectivement. Ouais. J'aurais un levier pour tout contrôler, ouais. Parce qu'il aime pas avoir Nate lui échapper, quoi.
Bien sûr que
il
non.
Il aime pas avoir Nate heureux.
Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Traficote, c'est que il manque, moi, pour moi, il manque aussi une scène.
Alors, Traficote nous dit, Nate, c'est trop rapide sa rédemption. J'ai cru que j'avais loupé un épisode quand l'équipe est venue le chercher au resto. Il le détestait juste avant et là, il l'aide sans explication de pourquoi il a démissionné des deux clubs. Étrange.
Ouais, je suis assez d'accord.
En vrai, on sait pourquoi il a démissionné de West Ham, du coup, les ennemis de Richmond. C'est parce que Rupert a essayé de le mener à tromper sa femme. Et aussi, alors c'est clarifié un petit peu dans le final, mais il y a une phrase qui dit il y a des rumeurs de d'agression ou de pression sexuelle au sein du club. Et il y a un peu un truc de peut-être que Nate, il a aussi compris que Rupert, il fait des trucs avec son assistante qui sont au-delà de la question de la morale, peut-être flou au moins de la question du consentement. Donc je pense que pour moi j'ai lu ça comme ça a été la goutte d'eau, ouais. À la fois que Rupert essaye de lui faire tromper sa meuf et puis que ça coïncide avec il y a des révélations, donc je me dis peut-être aussi qu'il a tout balancé, tu vois.
Après, à titre perso, je me dis juste que un être humain normal attendrait le dernier match de la saison, parce qu'en vrai la saison elle est quasiment terminée, pour démissionner, quoi. Bon, voilà.
Mais c'est un peu magique.
Mais c'est magique, comme tu dis. C'est que, ok, t'es pas d'accord avec ton boss, mais juste, tu vas à la fin de la saison et après tu démissionnes. Et voilà.
Et potentiellement, t'as gagné, donc tu démissionnes avec un petit package sympa.
En plus. Et puis, potentiellement, t'es pas au lit et t'es pas au fond du trou et machin, et en fait, t'en sors par le haut. Mais bon, magique, comme tu dis. Après, je t'avoue que j'ai pas trop cru dans leur discussion de fin avec Ted, quoi, tu vois. C'est juste, je m'attendais à autre chose. Je sais même pas à quoi je m'attendais, mais c'est juste.
Bah, ils disent pas grand chose, quoi. Ouais. Nate tient à lui dire qu'il est désolé, parce que ça, pour le coup, j'y ai cru, parce que Ted essaye tout de suite de lui dire non, mais c'est bon, je sais. Et Nate lui dit j'ai besoin de le dire, et ça, j'y crois. Mais en fait, il lui dit je suis désolé, et il pleure beaucoup. Et bah, Ted lui dit moi aussi, j'ai déchiré le signe, la pancarte Believe plusieurs fois. Mais c'est un peu genre, c'est pas vraiment ça le sujet, c'est pas cette fucking pancarte, enfin c'est ça, mais c'est pas ça, tu vois, genre t'as quand même dit à tout le monde qu'il faisait, enfin, t'as trahi sa confiance,
bah oui.
De plus d'une façon, c'est un peu rapide peut-être, comme peut-être que là on aurait bien aimé voir cette scène, quoi.
Oui.
Moi j'aurais plus aimé voir, en fait ça m'intéresse plus les rapports de Nate et l'équipe que les rapports de Nate et Ted. Et notamment le fait que l'équipe harcelait littéralement Nate moralement, notamment Isaac et Colin dans la saison 1, étaient ceux qui faisaient du bullying à Nate pour plaire à Jamie, tu vois, il y a un côté Mean Girls un peu à tout ça. Et ensuite, quand Nate il prend
Colin, dont
peu
on
des...
apprendra plus tard qu'il est homosexuel, donc il en a sans doute pris plein la gueule également, oui. À son niveau.
Bah Colin, on voit qu'il surperforme pour s'intégrer, quoi. Et qu'il a des raisons supplémentaires de surperformer la masculinité alpha, clairement. Mais ensuite, dès qu'il a un peu de pouvoir, Nate, il bolosse d'autres gens. Et notamment Will, le nouveau Kitman.
Horrible.
Et là, pour moi, c'était une erreur de management de Ted, mais ça fait partie de l'arc de Ted, que je suis d'accord qu'il a pas laissé Nate se mettre en conflit avec lui, mais il a pas cadré Nate quand Nate, il a commencé à être non seulement... En fait, je comprends le truc de... Je vais le regarder faire ses erreurs et c'est comme ça qu'il va apprendre. Mais quand ses erreurs, c'est harceler moralement un gars qui travaille là, tu vois, un jeune gars, je suis là, bah non.
Il a jamais été témoin de ça, non, Ted?
Bah si, parce que, enfin, je me souviens d'au moins des scènes avec Coach Beard et tout, qui observait beaucoup Nate, qui commençait à être coach et qui était là. Et ce revirement de l'équipe qui est passé de on harcèle Nate à on adore Nate à Nate nous a trahi, et c'est carrément un épisode entier où ils ont une telle fureur quand ils se rendent compte que Nate il a déchiré ce bout de papier, que ils se mettent à jouer complètement
n'importe comment, ouais.
Si je peux me permettre, je crois à l'italienne un petit peu en termes de foot. Les Italiens, ils sont pas connus pour jouer un peu vénère.
Non, les Italiens, le cliché de l'italien, c'est qu'ils trichent, voilà, c'est qui en mode acteur studio.
Pardon, autant pour moi l'Italie. Vous êtes juste
non,
de
c'est
pas
plus,
très bons
alors
acteurs.
Pour le coup, c'est très anglais d'avoir un football très rude, très très costaud.
Ils jouent sale et violent. Ils jouent carton rouge, ouais. Et bah en fait, on a juste cette scène de Colin et Isaac, et c'est pas anodin du coup que ce soit Colin et Isaac qui viennent dire à Nate au restaurant on veut que tu reviennes, et Nate il veut pas parce que c'est pas encore Ted qui lui demande de venir. Mais j'aurais plus aimé voir les discussions entre Nate et ses anciens coéquipiers, et avec Will peut-être, tu vois, parce qu'il devient assistant to the Kitman. Ouais. Et du coup, bah, il recommence vraiment encore plus en bas de l'échelle qu'il était avant, parce qu'il est assistant de ce qu'il était au tout début. Mais j'aurais bien aimé le voir peut-être s'excuser auprès de Will, de l'avoir harcelé, tu vois, des trucs comme ça aurait pu être pas mal.
J'avoue.
On peut juste trouver sérénité dans le fait qu'a priori, il va plus le faire. c'est déjà bien.
Il a pris une bonne leçon de vie, je crois, en l'espace d'une saison, le bon Nate.
Oui, oui. Rupert, qui a quand même plus un arc que ce que je pensais dans cette dernière saison. Honnêtement, je pensais qu'on le verrait moins, et c'est ok, parce que c'est Dark Vador, et il est là de temps en temps, et il est méchant, et t'es là, ok. Mais ils lui ont quand même donné, même à lui, une petite évolution de personnage, quoi.
Bah oui, parce que... c'est intéressant, ouais, en fait, parce qu'il a tout, il y a tout ce truc où, effectivement, au départ, ils l'ont vraiment grimé en grand méchant, quoi. Ta sœur disait qu'il était le comte Olaf, là, c'est ça, qu'il avait une dégaine de comte Olaf.
Ouais. Pour moi, il y a un vrai côté Dark Vador, surtout dans son bureau tout noir, là, très, c'est l'étoile noire.
Dans le dernier épisode, quand il vient voir le coach, là, avec son grand manteau, là, on dirait vraiment qu'il a une cape, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi.
Bah, il y a un peu qui dit purée la cape de Dracula qu'il a pour le match final MDR. C'est vrai.
C'est clair. Et, en fait, j'ai bien aimé, moi surtout, la relation qu'il a avec Rebecca finalement, parce qu'il tente à plusieurs reprises de lui remettre la main dessus, parce qu'en fait ce mec ne sait faire que ça, c'est-à-dire j'ai besoin de te retrouver, j'ai besoin de te récupérer, etc. Il finit par tromper, si je me trompe pas, sa femme
enceinte
avec son assistante, donc le mec est juste dans des boucles permanentes de tromperie, d'infidélité, etc. A priori, quand t'es infidèle une fois, est-ce que infidèle un jour, infidèle toujours ou
non.
pas? Ok. Bon. Après.
Verdict, non. Les gens changent.
Les gens changent. Pas Rupert.
Disons qu'on n'est pas toujours infidèle parce que c'est trop marrant d'être infidèle, quoi.
Oui, mais Rupert, en tout cas, n'a pas l'air de vouloir sortir de cette boucle du tout.
Très peu.
J'aime beaucoup le moment où il se fait coiffer au poteau par Rebecca la signature de Zava. Je trouve que cet épisode autour de Rebecca est vraiment génial, la façon dont elle s'impose auprès de lui, où elle va le voir
pendant
qu'il est en train de pisser là, machin, c'est vraiment canon. Et puis ce moment où, avec comment il s'appelle le milliardaire africain là
Ah oui, j'ai plus son nom. Mais oui, le milliardaire qui veut racheter à la base Sam.
Oui. Qui à la base veut racheter Sam et qui veut finir par créer
la Super League.
Une Super League là, qui est un vrai dos hein, d'ailleurs, qui est un vrai sujet dans le monde du foot.
Mais oui, mais bon.
De regrouper ensemble les clubs les plus riches et les donc en plus il y a un vrai truc
de faire des super matchs de foot accessibles seulement aux gens qui ont super l'argent pour payer les super tickets.
Exactement.
Avec que les super joueurs quoi.
Tout à fait.
Akufu, merci.
Et donc ce moment où il veut l'embrasser après ce déjeuner complètement raté, où bien sûr Rebecca l'envoie boulax.
Elle lui dit même pas, juste elle le regarde avec un air de gars et la tête de
Dude.
Rupert, tu sens que personne lui a dit non depuis genre avant l'euro environ. Il y a eu l'euro puis le Brexit et personne lui avait dit non entre temps, tu vois. Et ça le hit hard pour. Pour moi, un des arcs narratifs de Rebecca, c'est clairement se détacher
se
de
sortir.
Rupert, à la fois, bien sûr, dans l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle, mais dans la haine qu'elle a sur lui, c'est toujours lui donner de l'importance de le haïr. Et je trouve que à la fin, donc Rupert, dans le dernier épisode, il rentre sur le terrain pendant le match pour engueuler son coach parce que qu'il mise sur une victoire.
Il veut qu'il casse Jamie, en fait.
Oui, parce que c'est Jamie qui est pour l'instant la pièce centrale de la stratégie de Richmond.
Il faut savoir que c'est un vrai truc, hein. C'est-à-dire
qu'il y
a des coachs qui font vraiment ça, qui dont l'objectif est juste de blesser leur meilleur joueur pour
s'en
débarrasser.
Pour le coup, du football rude, voire très peu propre. J'imagine que ce n'est pas dans les règles officielles. Et en fait, tout le monde se moque de Rupert parce qu'il se donne en spectacle sur le. Et en fait, lui, il a un vrai enjeu personnel qui est qu'il espère que s'il gagne, bah peut-être ça peut lui éviter, en tout cas atténuer les conséquences du fait qu'on sait qu'il est agresseur sexuel, quoi, harceleur sexuel au travail. Et du coup, il pète un câble. Et en fait, tout le monde se moque de lui. Tout le monde le traite de wanker, etc. Et Rebecca, je trouve qu'il y a de la compassion dans comment elle le regarde. Il y a une forme de détachement. Et puis, il y a un côté, genre, en plus, elle est dans les tribunes. Et lui, il est tout en bas. Il y a un côté, genre, c'est un si petit homme tellement fâché qui est tellement là en train de prendre les conséquences de ses actes. Mais genre, il est nul, tu vois. C'est juste un petit homme perdu, quoi.
Et surtout, c'est un vrai revirement de situation. Parce que au départ, c'était le public de Richmond appelé Ted. Wanker, qui veut dire en gros branleur, et vénérer complètement Rupert, qui était parti. Donc, gros retournement de situation, quoi. Petit symbole.
Et Rebecca au début du match lui dit tu as tellement de chance parce que peu importe ce qui se passe ce soir, une équipe que tu aimes va gagner, puisque c'est soit Richmond son équipe de cœur, soit West Ham l'équipe qui possède, et à la fin les deux équipes le détestent, tu vois. C'est on récolte ce que l'on sème
toujours.
Est-ce que t'as d'autres choses à... Est-ce qu'on a fait le tour des personnages principaux? Attends, on a fait Ted, Rebecca, Killy, Roy, Jamie, Nate, Rupert. Est-ce qu'on a... Dites-nous le chat, est-ce qu'il y a des destins de personnages quand même un peu... Alors, on en a parlé un petit peu, on peut peut-être aborder plus largement que dans... Ah oui, Trent. J'allais dire, on peut aborder des, voilà, des choses qui sont pas forcément dans le final, il y a un grand moment, mais dans cette dernière saison, on a eu le temps de s'y pencher un peu plus. Trent Crim,
qui est independent.
Qui n'est plus chez The Independent.
Qui n'est plus journaliste, en tout cas affilié à un journal. Et qui, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il décide d'écrire un livre au début de la saison. Et c'est un peu un personnage qui est une sorte de fil rouge tout au long de la saison, qui est un peu observateur. Finalement, il ne sert pas à grand-chose, en tout cas en dehors de l'histoire avec Colin, où là, il y a un vrai sujet. Mais globalement, il sert un peu d'observateur, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'il vient faire là. Mais c'est intéressant de l'avoir parce que il y a un peu un œil extérieur au truc et en même temps il commente pas vraiment ce qui se passe.
Non, il y
a
eu
pas activement quoi.
Il y a eu envisagement à un moment dans la création de cette saison d'avoir une voix off qui serait la voix de Trent et que en gros la saison ça soit le livre de Trent vois, finalement. Et ça marchait pas sur Ted Lasso, ce qui m'étonne pas, c'est pas trop une série à voix off. Du coup, il est juste là. Mais la saison est mieux parce qu'il est juste là tout le temps. Et pour le coup, on parlait de potentiel spin-off. Trent qui va dans différentes industries voir comment ça se passe. Let's go. Je veux juste revoir ses cheveux. D'accord? Je veux revoir ses cheveux sur mon écran et voir ses fringues aussi.
Et effectivement, pour moi, son rôle principal dans la série, c'est d'accompagner Colin dans son coming out, où on comprend en même temps, en passant par là, que Trent, en fait, est gay. Il n'y avait rien qui l'indiquait particulièrement dans les saisons précédentes.
On n'est pas non plus tombé de notre chaise, quoi.
À part ton gaydar, j'ai pas de gaydar. Donc, voilà.
Disons que dans une pièce de journaliste sportif, il y en a un qui est bien coiffé, quoi. Qui fait un peu un effort sur le style. Ah. Ce qui n'est pas.
Ok, j'avoue.
Automatique. Il y a des personnes homosexuelles très mal coiffées, très mal habillées, comme chez les hétéros, et l'inverse existe aussi.
Bravo les clichés, bravo les préjugés.
Dans une écriture de série où tout a un sens, je suis pas tombée de ma chaise. Genre, j'ai vu que Colin était gay, j'étais là, Colin est gay, Trent est là, bing bang bong. Si quelqu'un doit être un peu le mentor de Colin dans faire son coming out, a priori, Trent Crim me semble être un très bon candidat.
Ok, j'avoue. Mais donc, moi, il y a cet arc avec Colin et Trent que j'ai trouvé hyper chouette. Et tu vois, encore une fois, je trouve que Ted Lasso arrive à... Enfin, la série arrive à creuser la psyché des personnages et qui ils sont, etc., de façon hyper maligne et sans trop gros sabots, en fait. Parce que tout... Alors, on peut discuter de Isaac et Colin, de leur relation un peu chelou et de pourquoi...
De tout cet arc, en tout cas, sur le coming out de Colin et son rapport à son homosexualité,
Mais non, j'ai beaucoup aimé... La façon dont Trent notamment regarde comme un enfant qui est en train de regarder si sa prof est en train de kiffer sa copie ou pas quand Ted est en train de lire le bouquin, quoi. C'est vraiment
tellement
super bien joué.
Je trouve qu'il y a rien de plus dur que de regarder quelqu'un lire un truc que t'as écrit, comme en plus tout le monde lit à pas la même vitesse et tout machin. C'est la chose là, moi je serais comme lui, je serais parti au début. Il commence à les regarder lire et il fait non, je vais pas rester là, et j'étais là mais oui c'est horrible, va-t'en, va dehors, va prendre une bière au pub et reviens, comme ça t'es pas obligé de subir ça. Mais c'est un autre chair et il veut voir quand est-ce que Teddy rit. Et il rit trop tard. C'est ça la réponse. Ouais. Il y a Trash Scott qui dit lui et la psy, donc Trent Crim et la psy, c'est mes prefs.
On n'a pas parlé
de la psy. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il nous plaît, c'est que en gros, ça nous fait un regard du monde extérieur un peu plus normal sur cet univers quasiment de conte de fées qu'il y a à Richmond. Et ça nous montre comment les gens y réagissent. À la fois, parfois, ça nous montre un peu les limites de ce système, tu vois. Et notamment la psy, elle est aussi là pour. Mettre aussi Ted en face de ses propres problèmes à lui, et que tu peux pas juste régler ceux des autres si t'as pas géré si tu gères pas un petit peu les tiens, Ted Lasso. Et Trent aussi, il pose ce regard de je pensais que le football ça marchait d'une façon et je vous vois faire autre chose, et lui-même est pas convaincu, et je pense qu'il fait ce livre avec l'espoir d'être convaincu, tu vois, que ça marche et que c'est possible de faire un truc qui réussit, et spécifiquement une équipe de foot qui réussit, en étant Ted Lasso et en ayant The Lasso Way. Mais je trouve qu'ils font un peu le rôle du public, ouais. Il se pointe en venant de l'extérieur dans ce monde-là et il constate comment ça marche.
Mais on peut parler du rôle. Enfin, moi, je trouve ça génial d'avoir foutu une psy au début de la saison 2 dans cette équipe, en fait, parce que quelle est la putain de probabilité? Alors peut-être que ça existe en vrai dans le sport professionnel, j'en sais foutre rien. Je sais qu'il y a des préparateurs mentaux, je sais qu'il y a des coachs qui coachent mentalement les joueurs professionnels, ça c'est sûr et certain. Une psy assermentée comme ça qui vient pour vraiment parler de la santé mentale spécifique et pas en rapport avec le sport directement.
Oui, c'est pas trop comment si tu te sens dans ta tête quand t'es sur le terrain.
Oui, c'est ça.
Tu peux aussi me parler du reste de ta vie. Quoi.
Voilà, ou pour améliorer leur performance d'une manière ou d'une autre, même si à la fin, j'imagine que ça améliore leur performance d'être mieux dans leur tête. Mais,
ils ont gagné ou pas? Bien sûr, ils ont gagné.
Bien sûr.
Ils ont gagné, mais perdu, mais gagné quand même.
Mais ouais, j'ai trouvé que le fait d'avoir mis ce personnage de psy à ce moment-là ouvre une toute autre dimension en fait sur le sujet dont la série veut parler, c'est-à-dire la santé mentale globalement et la santé mentale des mecs en particulier. Et pour moi, la saison 2, c'est la plus réussie, quoi. C'est la meilleure de toutes. Là où la saison 1, on comprend ce qui est en train de se passer. Pour moi, la saison 2, elle...
Ah oui, c'est bon. On a trouvé notre rythme. On est à l'aise sur nos appuis. On peut s'amuser. Ah. Et la saison 3, c'est déjà un goût de au revoir, quoi. C'est des épisodes plus longs. C'est des storylines où tu vois que ça commence à boucler, quoi. On commence à arriver vers la fin. La 2, elle est top tier. Moi, ce qui m'impressionne avec le docteur Sharon, qu'on voit finalement très peu, c'est qu'ils ont réussi quand même à lui donner une mini profondeur, puisqu'on a cette scène où Ted va la voir chez elle juste avant qu'elle parte. Et on se rend compte qu'elle picole pas mal, tu vois. Et j'étais là. Franchement, foutre un personnage de psy et arriver à te dire que la psy aussi, en fait, elle va voir un psy, c'est aussi une personne avec ses bails et tout, et ça l'humanise vachement aux yeux de tous les gens qui ont parfois peur d'aller voir des psys. Oui. Je pense que ça rassure de savoir, enfin, il y a des gens qui sont là, moi, je veux pas imaginer ma psy en train de se faire guélard et de manger un bol de glace parce que j'ai besoin de me dire qu'elle va m'aider à pas faire ça, justement. Mais en fait, les psys sont aussi des humains avec
les cordes d'animal chaussées, quoi, tu vois, c'est heureusement.
Oui.
Heureusement qu'ils vont pas bien.
Et s'ils allaient jamais bien, ils pourraient pas nous aider à comprendre pourquoi on va pas bien, tu vois. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un tour de force. Et dans le tout dernier épisode, on la voit regarder le match, ce qui est trop cool parce qu'on l'a quasiment pas vu.
Elle regarde pas, elle est en mode ultra supportrice.
Mais tu sais, comme je suis zinzin, j'ai regardé comment elle regardait le match et quand ça se passe mal, elle bouffe. Et quand ça se passe bien, elle bouffe pas parce qu'elle bouffe ses émotions et j'étais là.
Bien wedge.
Ils sont forts. Ils sont forts quand même. C'est
bien fucking wedge.
On parle un peu du coup de Colin et Isaac et de cet arc homosexualité dans le foot et révélation de l'homosexualité qui est, je te l'avais évoqué il y a quelques jours, peut-être un des bémols que j'ai à mettre sur cette dernière saison qui m'a, pour moi c'est un 8 sur 10 la dernière saison, elle est vraiment bien et 8 sur 10 d'une série qui est à 9 sur 10 donc on est très bien. Mais j'ai eu quelques bémols et notamment, j'étais très contente qu'on parle du fait que Colin est gay. J'étais très contente qu'on amène dans la dernière saison le sujet de l'homophobie dans le sport, qui est un énorme sujet dans le foot.
Dans le foot en particulier. Ouais.
C'est au-delà du sport, c'est quand même le sport numéro un. Et où il y a encore beaucoup d'homophobie. J'ai trouvé
ça. Mais surtout, il y a combien de mecs, de professionnels, tu vois, dans toutes les ligues européennes, au top des ligues européennes, qui sont ouvertement gays. Je n'ai pas la stat, mais non.
Alors, peut-être pas au top, mais j'avais cherché... Attends.
En Europe ?
Attends. First out gay player, j'avais cherché... Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un mec qui a fait son coming out, qui était footballeur pro, et c'était un truc genre, c'est la première fois qu'un footballeur pro à ce niveau fait son coming out, alors qu'il est en activité, c'est ça. C'est ça. Josh Cavallo, premier footballeur pro en activité à faire son coming out. Donc ça veut dire qu'il y a aucun autre footballeur footballeur pro en 2021 qui est ouvertement gay. Statistiquement, c'est pas bon. Hein.
Ça ne marche pas.
Les statistiques sont pas bonnes.
C'est voilà, ça ne peut pas marcher. Bravo Mimi.
Donc voilà, pour répondre à ta question, il y en a un. Et c'est pas une vanne, genre il y en a en 2021, il y en avait un qui est en activité et gay.
Incroyable.
Un.
Mais en France, en Europe ? Non.
Non, dans le monde.
Dans le monde ? C'est ça ?
Oui. Parce que c'est un footballeur australien.
What the fuck ?
Donc nous avons un article de TF1 Info qui nous dit « Dans une vidéo touchante, le footballeur australien Josh Cavallo a révélé mercredi 27 octobre 2021 son homosexualité dans un milieu connu pour son omerta. » Blablabla. S'il a longtemps caché sa vraie nature, c'est parce qu'il avait peur de la réaction des gens dans un milieu où la question de l'homosexualité est un tabou encore tenace. En tant que footballeur gay, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n'était pas quelque chose de facile. J'ai vécu ma vie en supposant que c'était un sujet dont on ne devait jamais parler. Mon copain, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs, tous ont été incroyables. Les réponses que j'ai reçues sont merveilleuses, ce qui me fait me demander pourquoi j'ai gardé ça pour moi tout ce temps. Voilà. Plusieurs grands noms du football l'ont remercié d'avoir parlé, dont Antoine Griezmann, Gérard Piqué, bien sûr que des gens que je connais.
Gérard Piqué.
Peu de joueurs professionnels se sont déclarés publiquement homosexuels lorsqu'ils étaient en activité. Avant de se donner la mort en 1998, l'anglais Justin Fashanu a été le premier footballeur connu à sortir du placard. Désavoué par son propre frère, il avait vu plusieurs de ses coéquipiers lui tourner le dos en 98. Déclarant qu'un homosexuel n'avait pas sa place dans une équipe. Depuis, seul l'Australien Andy Brennan, alors qu'il évoluait dans un championnat mineur, a brisé le tabou en 2019.
Oh là là.
C'est ahurissant de savoir qu'il n'y a aucun joueur en activité qui a fait son coming out en Australie comme ailleurs, déplore Josh Cavallo. Dans le football, l'opportunité d'atteindre la gloire est infime et faire son coming out peut avoir un impact négatif. Mais je sais que d'autres joueurs se murent dans le silence.
Ah bah oui.
Et donc il relaye un témoignage de The Sun qui à l'occasion avait relayé le témoignage anonyme d'une star du foot qui disait la vérité et que je serais crucifié. Josh Cavallo souhaite évidemment désormais
et
aider
Olivier
à
Giroud donc qui était
libérer la parole.
Olivier Giroud qui est l'un des joueurs de l'équipe de France qui dit sur l'homosexualité si je l'étais, je pense que je ne le dirais pas.
Voilà. Donc on est à 1.
Et on comprend pourquoi dans Ted Lasso on est à 1 puisque il y a on voit aussi la réaction du public.
Oui.
Tu te souviens de cette fameuse, de ce fameux séquence où il y a un des mecs du public qui dit PD ta fiole ou je sais plus quoi parce qu'en fait c'est
oui, les traite de fagot le mot anglais, ce qui est PD et dans les stades anglais comme français, on entend énormément d'insultes homophobes qui sont alors certes rentrer dans le langage courant au-delà du foot, hein, bien sûr, malheureusement, mais qui sont très présentes. Et
mais donc, Isaac, pourquoi ça t'a...
Ouais.
Pourquoi ça t'a... Mais...
Moi, ça m'a un peu déçu cet arc, même si j'étais très contente qu'il soit là, et au final, que ça finisse bien, c'est très bien. J'étais pas du tout sur « il faut que ça soit traumatique, il faut qu'il se fasse sortir de l'équipe pour montrer que dans le vrai monde, ça se passerait comme ça », parce que déjà, on voit avec cet exemple de jeune joueur australien que c'est pas le cas, enfin, c'est pas toujours le cas, et aussi parce que c'est fucking Ted Lasso et que c'est ok d'avoir une série qui est un peu une utopie, quoi. Mais j'ai trouvé que ça allait être un peu trop sur ce coup-là, parce que, en fait, moi, je pensais que ce serait l'occasion de confronter justement l'homophobie intériorisée dont peut faire preuve à Isaac, puisqu'on a en plus littéralement une scène, alors qu'on sait déjà que Colin est homosexuel, où Isaac il dit ce serait un peu gay de, je crois qu'il, je sais plus de qui il parle en disant il est bel homme et tout, et Isaac il dit ah c'est un peu gay, et Colin il fait une vanne genre bah moi aussi je suis gay pour ce gars là c'est une vanne, et en fait tu sens que voir son meilleur ami qui dit c'est un peu gay, bah ça c'est une des raisons pour lesquelles il dit pas en fait aux gens qu'il est homosexuel. Et quand il l'annonce, la réaction d'Isaac, du coup, elle est violente. Enfin, il se ferme et il veut plus lui parler. Et donc, tu as tout ce moment où tu te demandes pourquoi. Il finit par péter un câble sur un fan qui utilise certes PD, fagot, qui est une insulte pour le coup, qui est pas le mot gay, qui est une insulte homophobe. Et ensuite, quand il se confronte enfin à Colin, il lui dit, je sais pas ce que moi j'ai fait pour te laisser croire que tu pouvais pas me le dire. Mmh. Et Colin lui dit, c'est pas toi, c'est en fait, c'est juste une peur qui va au-delà de toi. Il lui dit pas, c'est pas toi, t'es parfait. Il lui dit, ça va au-delà de toi. C'est juste que, oui, je savais que probablement ça se passerait bien, mais la minuscule chance que ça se passe pas bien, elle était assez pour me paralyser parce que voilà. Ce qui est aussi une réalité de la vie de plein de personnes queer. Mais en fait, j'aurais préféré qu'il lui dise, bah, peut-être arrête de dire que c'est gay dans les vestiaires, tu vois. Genre, peut-être qu'il y a une partie des choses que tu as fait qui ne m'ont pas informé que t'allais être à l'aise avec. Ouais. Et en fait, ça, j'aurais trouvé ça trop bien que Ted Lasso amène ces discussions-là de, entre mecs aussi, à force de performer la virilité, on peut finir par dire des trucs qui font que nos potes vont pas oser être qui ils sont. Mmh. Et ça peut être, ah, c'est un peu gay quand t'as un pote qui peut-être il est gay en fait, et tu le sais pas, et peut-être qu'il le sait pas encore non plus. Mmh. Mais ça peut être d'autres choses, tu vois, que tu dis parce que c'est marrant et parce que tu fais un peu le gars sans dire peut-être qu'il y a quelqu'un autour de moi qui est concerné et que du coup c'est pas fun. Mmh. Et j'ai trouvé que c'est un peu une occasion manquée du coup.
Ouais, je suis d'accord.
Et peut-être limite un tout petit peu trop utopique par rapport à en fait à la gravité du
oui,
moi je
ça.
Savais cette stade de 1, tu vois, j'étais là par rapport à la gravité du sujet de l'homophobie dans le sport, enfin en tout cas de l'état de l'homophobie dans le sport qui est gravissime dans le foot, ça se passe tellement trop bien.
C'est ça, c'est
que ça
en fait
nous dit pas trop si quand ça arrive dans la vraie vie comment réagir, tu vois.
Ça aurait été cool qu'il y ait vraiment un personnage, pas forcément Isaac mais en tout cas un autre, qui vienne lui dire en fait moi j'ai un vrai problème avec ça.
Oui, ou qu'il y ait au moins ce côté. Alors, donc on les voit après jouer à la console et ils posent des questions. Et Isaac, il demande quid des douches, tu vois. Genre, moi, si je prenais des douches avec que des meufs, bah, je serais excité. Mais il n'y a pas cette. Tu vois, bah, par exemple, tout. Apparemment, c'est encore une scène qu'on n'a pas. C'est. On voit pas le coming out de Colin à l'équipe.
En fait,
t'as tout ce micmac où il pense que c'est Isaac qui est gay, parce qu'il a été fâché par l'insulte homophobe. Et Colin, il se lève et il dit non, mais Isaac est pas gay, et ça cut. Et on sait que l'équipe l'a juste bien pris. Mais en vrai, je pense que dans une bande de gars qui se douchent avec toi tous les jours et qui sont tous en train de faire semblant d'être hétéros, en tout cas, ou qui sont hétéros, bah en fait, se rendre compte qu'un mec qui est là avec eux et qui est gay, ça pose
aussi
des sujets, en fait. C'est pas aussi simple que... Oui. Ils ont tous été super contents, ils ont dit « ça change rien, c'est ok ». En vrai, ça pose des...
Ça peut amener des discussions, en tout cas.
Oui.
Ça peut amener des discussions qui seraient intéressantes à montrer.
Voilà, parce que c'est sûr que Ted Lasso les aurait bien abordées, tu vois. Donc j'étais un peu déçu de le genre de discussion qu'il y a autour de Kelly quand elle a sa sextape Kelly, tu vois, de « c'est pas ta faute, t'as rien à te reprocher,
c'est trop bien
t'as pas à avoir honte d'avoir
traité.
Fait ça et tout ». Bah ça, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu, du coup, peut-être cette introspection sur comment Isaac lui-même, il a un peu favorisé un climat qui n'aidait pas à son pote à être lui-même, quoi, voilà. Traficote dit, faudrait peut-être étudier des passages de cet épisode dans les collèges lycées. Après, c'était trop rapide et un peu hypocrite dans le sens où il y a en effet plein eu de moments de blagues, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de retour dessus, comme vous dites. Ils ont fait cette confrontation dans les vestiaires avec le moment, il faut supprimer toutes les photos, toutes les nudes que les meufs vous ont envoyées, même si. Ça aurait été l'occasion de dire, on fait pas des vannes homophobes, même si. En effet. Donc ça est une partie des arcs de Killy, avec notamment ce personnage de Shandy dans sa boîte, là, sa pote, voilà. C'était pour une dernière saison en plus, on n'a pas le temps déjà peut-être pour ça.
Bah, c'est aussi une façon, pour moi c'est aussi une façon de s'affirmer en tant que boss, c'est-à-dire que j'ai trouvé que Shandy elle était juste là pour ça, c'est-à-dire oui. Ok, t'es sympa parce qu'il y a ta pote et en fait que tu veux la faire rentrer, mais à un moment donné il va falloir la tèche quoi, tu vois, et en plus... C'est cool parce que c'est Jack qui la mentor, entre guillemets, parce que c'est pour moi l'un des rares moments où Jack, elle est chouette avec et qu'en fait, elle lui donne des vrais conseils qui sont des conseils de, on va dire, de boss, d'investisseur à boss, quoi, tu vois.
Oui, de comment tu gères une employée qui fait un truc qu'elle n'a pas le droit de faire dans le cadre
Exactement.
De la compagnie, quoi, qui met l'entreprise dans la sauce.
Ouais, donc pour moi, elle était là pour ça, tu vois, Shandy, vraiment pour dire, en fait, bah, c'est aussi un apprentissage de devenir boss et... En fait, t'as envie d'être sympa avec les gens et de les embaucher parce qu'ils sont tes amis, mais à un moment donné, quand ils déconnent, il faut être aussi capable de les virer, quoi.
Tout à fait. Je te propose qu'on clôture l'arc sur la fin de Ted Lasso. Après, on pourra parler rapidement des grandes lignes de qu'est-ce qu'on va retenir de cette série et ce qu'elle nous a apporté. J'ai pris des petites notes parce que j'ai été sur Reddit. Connaissez-vous Reddit ? Les gens ont fait le taf. Alors, j'ai une partie, les callbacks et les références du dernier épisode. J'ai une partie... Alors, je les ai pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. J'ai une partie, tu sais, à la fin, Ted, il regarde les journaux avant de partir. Et du coup, on a plein d'infos sur des trucs qui sont arrivés à d'autres persos quand on fait pause sur les journaux. Et j'ai l'AMA de Brendan Hunt, alias Coach Beard, qui a fait une FAQ « Posez-moi vos questions » sur Reddit Ted Lasso, qui est le co-créateur de la série. Donc, c'est pas juste un acteur. Ah oui, Coach Beard, c'est un des gars derrière Ted Lasso. Et lui, c'est un nerd de foot. Genre, c'est Coach Beard. Genre, toutes les scènes où il lit des livres de foot, c'est parce que c'est ses livres de foot préférés.
Ah, putain.
Genre, lui, quand il y avait le fameux Pep, là, l'entraîneur.
Oui, Pep Guardiola.
Dans la vraie vie.
Le fameux Pep.
Je ne sais pas qui c'est,
Fabrice.
C'est
une putain de légende, ce mec.
Ok, est-ce que tu sais qui est l'éditrice de George R. R. Martin ?
Non.
C'est une putain de légende, cette meuf. Moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Vous voyez, il y a des gens qui savent. Bref. Mais je ne sais pas, c'est une légende du foot britannique. Qu'est-ce que je m'en fous, tu vois ?
Non, mais non, déjà.
Une légende du foot, si tu veux.
Espagnol.
Espagnol.
Il est.
Oui. Ah oui, non, là, il entraîne une équipe.
Il est espagnol et il a gagné plein de... avec le Barcelone, avec le FC Barcelone. Mais bon.
Et ben, on connaît pas les légendes du cricket, tu vois, ou du baseball. Bon, c'est pas très grave. Anyway, donc.
Fucking Pep Guardiola.
Bah, par exemple, Brendan Hunt, quand il y avait Pep, c'était vraiment genre. Oh my God, on
bah oui.
Pep, tu vois,
bien sûr.
Juste quand il fait. Ah ouais. Il tease réel. Donc, on va commencer par. Alors, des petites références que j'avais pas. En fait, il y a beaucoup de références à Cheers dans Ted Lasso, apparemment. Cheers, qui est une vieille série américaine. Enfin, vieille, ça date quand même des années 80. Donc ça commence à...
C'est quoi? Non, je ne l'ai pas.
C'est une série télé qui se passe pas mal dans un bar où il y avait notamment Ted Danson qui joue, tu sais, dans The Good Place, Michael.
Oh, ok.
Qui est super. Et en fait, il y a pas mal de références à Cheers parce que un des acteurs principaux de Cheers est l'oncle de Jason Sudeikis qui joue Ted Lasso. Et notamment à la fin, alors je l'ai noté parce que j'avais tilté dessus, on a une scène finale avec May où on voit que May, elle a acheté plein de parts de Richmond, oui, parce qu'on en parlera, mais Rebecca a vendu presque la moitié des parts de Richmond aux fans. Et en fait, elle recadre un tableau et c'est genre, je sais pas si t'as tilté, mais j'ai trouvé que c'était hyper visible, genre il y a vraiment une pause où on la voit recadrer un tableau. J'étais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un hommage au final de Cheers où le taulier du bar recadre un tableau dans le final de Cheers. Voilà.
C'est niche, hein, les gars.
Oui. Il y a des références au Magicien d'Oz, il y en a plein, parce que Ted vient du Kansas et que en fait c'est un peu son histoire du, c'est un peu Dorothée, tu sais, qui quitte le Kansas et qui, bon, il y a des gens qui font des parallèles, genre du coup Roy Kent, c'est celui qui a pas de d'émotion, avec à qui on va mettre un cœur, tu vois,
c'est ça, non,
il y a l'homme de fer, l'épouvantail et le lion, il veut du courage, du coup c'est un peu Nate et tout, enfin voilà, il y a des gens qui font des parallèles, mais on a des références plus directes avec notamment il joue au flipper Magicien d'Oz dans le pub. Et à la fin, il a des chaussures rouges, comme Dorothy a des chaussures rouges au moment où elle est emportée dans la tornade. Et dans le dernier épisode, en fait, j'étais là quand Beard, il se jette de l'eau dessus. Donc, il veut trouver une stratégie pour sortir de l'avion, alors que les portes sont déjà fermées. Ouais. Et il se jette de l'eau dessus et il se met à hurler, à se rouler par terre en faisant semblant d'avoir une crise d'appendicite. Et j'étais là... Bon, d'accord, mais c'est un peu une façon... Enfin, c'est dramatique, c'est bien, oui, tu vois, le mec est fou. Et
Ted
en fait,
lui dit l'autre côté.
Oui, j'ai trop aimé, parce qu'il a pas l'appendice de mon côté. Et en fait, c'est la fin du Magicien d'Oz, il y a la méchante sorcière de l'Ouest, on lui met de l'eau dessus, et elle fond en hurlant, et elle dit « Je fonds, je fonds !» Ah, oui. Et c'est vraiment ça qu'il fait. J'étais en mode « C'est malin quand même !» Donc ça, j'étais contente parce que je l'avais pas. Le signe Believe, il est réparé avec... Nate le répare avec de la peinture dorée, qui est une référence à l'art japonais du Kintsugi, n'est-ce pas, oui. Où l'idée, c'est qu'on répare les choses cassées avec de la peinture dorée, parce qu'elles sont encore plus belles, d'avoir été brisées puis réparées.
Tout à fait.
C'est joli quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les journaux? Attention. Donc, on apprend que Rebecca a vendu 49% des parts de Richmond aux fans.
Bien, oui.
Non, elle a dit soit je vends 49% des parts, soit je vends tout, mais on savait pas à qui elle les aurait vendues. On apprend quand Ted regarde les journaux.
Ah ok, parce que pour moi, comme May a acheté tous les trucs, tu vois, on se doute que c'est aux fans.
Et on voit d'abord le journal qui dit Rebecca vend la moitié des parts de Richmond, et on voit que les trois du pub, ils ont acheté une part chacun, et May, elle est là, girl boss quand même. Hein. Tu sens que la go, elle a son commerce, c'est bon, elle a fini de rembourser son prêt. L'assistante de Rupert est rentrée dans une émission de télé type Love Show comme Jamie avait fait. Bex, qui est donc l'ex-femme de Rupert, a décroché un contrat d'édition pour un livre de recettes à base de placenta. Sachez-le, c'est réel, ça existe. Vous pouvez trouver. Googlez recette placenta et ne me remerciez pas. Shandy a lancé son appli de dating de célébrité qui s'appelle Starfucker. Car pourquoi pas? Alors, il y a un article, on parlait de Jack, il y a un article qui s'appelle « Jack Danvers is no longer daddy's little girl ». Donc, Jack n'est plus la petite fille à son papa. Ce que beaucoup ont interprété comme « elle a aussi des nudes qui ont leaké ». Sachant qu'elle a reproché à Kelly que, genre, si t'envoies ça, t'es déjà une Marie couche-toi là, n'est-ce pas? Peut-être que le karma fonctionne. Et c'est arrivé... Des gens qui reprochent à d'autres gens de prendre des nudes ou d'envoyer des sextos ou quoi, et qui ont eux-mêmes une galerie de photos plutôt remplie, si je peux me permettre, sur leur téléphone. Donc ça marcherait bien.
Tu parles?
Non, pas moi. Enfin, moi, j'ai vraiment zéro nude. J'ai un shooting de nu professionnel, il est sur Patreon, ok? D'accord. Abonnez-vous. Je n'ai pas d'autres nudes de moi. Je ne les garde pas. Il y a Zava qui a repris le football et qui rejoint le LAFC, l'équipe de foot de Los Angeles, tout comme Zlatan l'a fait pour de vrai. Oui. Rappelons que Zlatan avait fait publier une pleine page en arrivant dans le Los Angeles Times qui disait « De rien, Los Angeles
!» Ce personnage est génial, franchement, je trouve.
Ouais, c'est trop pur. Et l'article précise qu'il a choisi Los Angeles parce qu'ils adorent les avocats. Vu qu'il a sa ferme d'avocats, tu sais que
c'est ces énormes avocats, là.
C'est du bon business. Zorro et donc Zorro, Van Damme, Zorro, mais à la fin c'est de nouveau Zorro, il est embauché pour jouer dans le remake de Escape to Victory par et avec Jean-Claude Van Damme, donc il a un rôle dans un film de Jean-Claude Van Damme.
Incroyable.
Pep lance une ligne de vêtements dédiée aux hommes à la silhouette parfaite.
Bah oui, bien sûr, parce qu'il est ultra, en fait Pep Guardiola est toujours ultra stylé, ça se voit pas.
Bah là, en vrai, petit flow col roulé noir, manteau et tout, même dans l'épisode.
Bah, là, okay. Pas une, il a une grosse doudoune, mais sinon, tu sais, il est tout le temps ultra sapé. Il est tout okay. le temps sapé. Il a des costards de ouf et tout, quoi. Tu vois. Donc, c'est très intéressant. Alors, je sais pas s'il l'est toujours, mais à l'époque, il avait stand out parce que les mecs venaient plutôt en mode survêtement, quoi. Tu vois. Et lui, il était ultra sapax.
Merci à lui de rappeler qu'on peut aimer le foot et bien s'habiller. Mm. Et on a aussi un article qui est paru qui s'appelle The Quiet Genius of Leslie Higgins. Le génie discret de Leslie Higgins, et il mérite.
Bah oui.
Leslie est plus malin.
C'est l'un des, c'est vraiment l'un des persos grandement sous-estimés de cette série et qui est trop cool, quoi.
Tout à fait. Traficote nous dit, j'ai vu sur internet des listes de tous les livres auxquels série fait allusion, j'ai trop envie d'essayer de les lire, notamment ceux choisis pour les joueurs. Mmh. Eh bien, à ce propos, donc Ted, quand il arrive, il offre un livre à chaque joueur, et à la fin, dans le dernier épisode, Jamie est en train de lire le livre, enfin! Que Ted lui a offert, qui est Les Heureux et les Damnés de Fitzgerald. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais quelqu'un a demandé à Brendan Hunt, est-ce que vous avez encore la liste de tous les livres qu'il a offert à tous les joueurs ? Il a dit, on l'a eu, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on l'a gardé depuis la saison 1, donc peut-être qu'on ne les aura pas tous, mais je pense que c'est des bonnes lectures, globalement. Plutôt recommandé. Dans les callbacks, donc j'ai Jamie qui lit ce livre, j'ai La Danse de Ted Lasso, on en a parlé,
bien sûr.
Qui revient évidemment, Ted Lasso qui apprend ce que c'est qu'un hors-jeu, et c'est la même actrice qui fait la petite fille du nouveau compagnon de Rebecca, et qui fait Rebecca quand elle est petite. Tu sais, quand elle se voit petite, c'est la même gamine. Je l'avais pas.
Incroyable.
Reddit, la magie de Reddit.
Merci Reddit.
Et quelqu'un a demandé à Brendan Hunt, est-ce que c'est bien la même actrice et si oui, pourquoi ? Et il a répondu oui et magic. Genre, ça marche. Et donc, Brendan Hunt confirme que la séquence de fin où on voit la suite de tout le monde n'est pas un rêve. C'est bien la réalité.
Parce que
ça se clôt sur Ted qui se réveille dans l'avion. Du coup, c'est un peu genre, ok. Et j'ai vu des gens qui étaient surpris parce qu'on voit Beard se marier et Ted n'est pas là. Donc c'est un peu genre, ils sont pas fâchés, pourquoi ils viendraient pas à son mariage à Stonehenge, ce qui est genre...
Ouais. Bien sûr qu'il s'est marié.
Évidemment qu'il se marie avec sa meuf Zanzara à Stonehenge. Et en fait, du coup, une des top questions à Brendan Hunt, c'était ce truc de, en fait, Ted, il vient pas au mariage de Beard et c'est chelou, non ? Et Beard, il dit, alors moi, je trouve pas ça chelou. Enfin, Brendan Hunt, pour le coup, dit, je trouve pas ça chelou. Et j'ai un très bon exemple qui est mon amitié avec Joe Kelly, co-créateur de Ted Lasso. On est hyper amis. Et un jour, j'ai reçu un mail de sa part qui m'invitait à son mariage, qui était genre un mois et demi plus tard max, et qui disait, vraiment pas de soucis si tu peux pas venir. Et j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, mais en effet, je pouvais pas venir. Donc je l'ai appelé pour lui dire, il m'a dit pas de souci. Et vous savez ce qui s'est passé après ? C'est que il s'est marié, j'étais pas là et on est quand même amis. Parce qu'en fait, la vie c'est ça, des fois on n'est pas là pour tous les moments et c'est ok. J'étais en mode, d'accord, ça fonctionne. Et pour lui, il voit la relation entre Ted et Beard après le final comme, ils se parlent pas tous les jours, ils se voient pas si souvent, mais quand ils se voient c'est comme si c'était vu la veille, ce qui leur va bien. Il confirme que Dr Jacob, le nouveau compagnon de Michel, n'est plus... qu'à la fin, pour lui, ils sont plus ensemble. Ce qu'il veut, il dit, ça veut pas dire que Michel et Ted vont se remettre ensemble.
Oui.
Ils peuvent être coparents séparément, mais en tout cas, il n'est évidemment plus là. Et il confirme que la petite surprise de début d'épisode final où t'es là, est-ce que Ted et Rebecca, ils ont pécho ? C'est un clin d'œil volontaire à toutes les théories de fans, parce qu'il dit en gros, oui, regardez les théories de fans. Non, on s'en est jamais servi comme support d'écriture. Oui, on y a fait quelques clins d'œil, notamment, évidemment, l'ouverture du final. Voilà.
Trop
c'était
cool.
Mes petites recherches. Time to dire adieu à Ted Lasso. Du coup, qu'est-ce que tu vas retenir de Ted Lasso ? De quoi t'as envie de parler maintenant que c'est fini ? En attendant peut-être un spin-off.
Moi, c'est vraiment une série qui m'a... ouvert le cœur, vraiment, sur plein d'aspects. Tu vois, en fait, pour moi, à partir du moment où on découvre qu'il est en train de divorcer, en fait, à partir de ce moment-là, chaque épisode m'a fait pleurer. C'est que vraiment, je ne me souviens pas d'un épisode. Alors, le dernier en particulier, parce qu'ils m'ont eu sur la chanson, mais sinon, peut-être pas, tu vois, il y aurait peut-être pas eu le grand chelem, mais sinon, globalement, tous les épisodes me faisaient pleurer. Et c'était, tu vois, c'était limite, mais... comment ils font, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, à une période, je regardais Ted le jeudi parce que je faisais des allers-retours en train, tu vois. Et j'ai commencé à regarder le jeudi et en fait, je pleurais systématiquement dans le train, donc. Et j'étais un peu mal à l'aise au départ de pleurer devant tout le monde. Et au fil de l'eau, je me suis dit non, mais en fait, en vrai, c'est un super exercice pour toi d'apprendre à pleurer devant tout le monde, parce que l'un des trucs que les mecs font, c'est qu'ils se cachent pour pleurer. On avait regardé ensemble ce fameux documentaire que je vous invite à regarder, qui s'appelle The Work, qui est très difficile à trouver, mais que vous pouvez trouver sur les internets si vous cherchez bien. The Work Storyville. Mm-hmm. Où il y avait un passage qui m'avait marqué, où le mec disait, non mais pleure, le menton relevé et le torse gonflé, en fait, genre, pleure vraiment, laisse couler tes larmes, quoi.
De pleurer, quoi.
Voilà. Ne te cache pas pour pleurer, parce que souvent les mecs, ils sont là, ils se cachent et tout. Et en fait, cette série m'a vraiment entraîné à pleurer en public, à me prendre en photo systématiquement à chaque fois que je pleure. Maintenant, à chaque fois que je pleure, je me prends en photo. Parfois, je le fous sur les réseaux, mais parfois pas, parce que c'est juste pour m'entraîner, moi, à pleurer. Et en fait, j'ai juste envie de dire merci à cette série, parce que ça m'a vraiment ouvert ça. C'était très marrant, en fait, parce que les gens en face de moi, je voyais aussi leur réaction de me voir pleurer. Parce que parfois, j'étais dans des trucs de 4, là, dans des carrés à la con, dans les TGV. Et en fait, je m'en fous, je pleure, quoi, tu vois. Et les gens, ils étaient un peu embêtés, genre, ça se passe bien et tout. Moi, j'étais juste en larmes de ouf. Et en fait, ouais, c'est vraiment ce dont je me souviendrai, tu vois, de cette série, c'est que c'est venu toucher de façon très sensible et très précise. C'est venu appuyer sur des boutons chez moi qui m'ont retourné la tête. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à une série ou à un film ou à une œuvre d'art d'une manière générale que ça, de te créer des émotions jusqu'au point de pleurer. Et dans l'avant-dernier épisode, je voulais le mentionner parce que pour moi, c'est un peu le...
Donc l'épisode avec la daronne de tête.
Voilà,
et avec
c'est un peu le...
Les daronnes, quoi.
Exactement, c'est l'épisode sur les daronnes et c'est un peu le boss final, en fait, de Ted. Tu le vois vraiment... qu'elle arrive et t'es là, ok, en fait, pendant tout l'épisode, il est ultra sous l'axe parce que sa mère, elle est Ted.
Oui.
Sa mère, elle est Ted avant qu'il rentre en thérapie et avant qu'il bosse et avant qu'il soit qui il est, etc. Et on comprend qu'il soit énervé. Et il y a cette séquence fabuleuse, moi, dont je me souviendrai toute ma vie, où il lui dit « thank you et fuck you ». Et il lui dit « merci pour tout ce que tu m'as fait parce qu'en fait, tu m'as aimé, t'as été une mère aimante, etc. » Et en même temps, fuck you, parce qu'en fait, quand papa est mort, bah, t'as pas voulu aller chercher de l'aide et juste t'as tout foutu sur le tapis. Et aujourd'hui, bah, moi,
tu m'as fait croire que je devais. Et du coup, j'ai cru que je devais tout mettre sous le tapis aussi.
Et je trouve que ce thank you, fuck you, c'est tellement une. C'est génial, en fait, parce que pour moi, il n'y a pas de meilleure façon que de s'adresser à ses parents pour leur dire à la fois merci pour tout ce que vous m'avez apporté et en même temps. Fuck you, parce que vous m'avez quand même refilé des sacrées casseroles et que, en fait, c'est cool de le dire. Et surtout que c'est fait avec beaucoup d'amour de sa part, quoi. Tu vois, il y a de la colère aussi, il y a un peu de colère, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Et je trouve que c'est joué à merveille par Jason Sudeikis. Et, enfin, bref, cette séquence-là m'a achevé. Je crois que j'étais vraiment dans des larmes pas possibles. Et voilà, ça, c'était canon, vraiment.
C'était trop bien. Je crois que t'as une petite liste de tes meilleurs moments, c'est ça ?
Ouais, mais...
Moi, j'ai pas préparé de petite liste des meilleurs moments, mais t'as eu une liste des moments qui t'ont le plus.
Ouais.
Si tu devais n'en retenir que quelques-uns dans une série qui est pleine de moments quand même assez...
Attends,
dangereux.
Juste deux secondes, je réponds à un truc urgent.
Pas de souci. Une série qui donne le droit d'avoir des émotions et de kiffer ses émotions. Oui. Et de pas les kiffer aussi, des fois, mais c'est pas grave de juste accepter qu'elles sont là, quoi. C'est déjà une bonne... déjà un bon début.
Donc ouais, pour moi, le premier moment qui m'a vraiment fumé, c'est quand tu comprends effectivement qu'il va divorcer. Je crois que j'ai vraiment pleuré très fort parce que on comprenait pas pourquoi trop il était là, mais là on comprend. Et en fait, pour moi, ça a ouvert une porte sur. Ok, en fait, jusque là c'était une comédie, mais peut-être pas tant.
Est-ce qu'on s'est fait bambouzel encore ? Est-ce qu'on va avoir des émotions ? Ah là là, le cheval de Troie. Ah non.
Je vous le mets dans les ordres, hein. Mais après, pour moi, l'autre moment incroyable, c'est quand la psy lui dit The truth will first piss you off. Then it will set you free, c'est-à-dire, en gros, la vérité va d'abord t'emmerder de ouf, et puis après elle va te libérer. C'est le fameux moment où il découvre que Nate l'a trahi, en fait, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est une base thérapeutique de base, en fait. C'est-à-dire, bah, c'est cool de regarder la vérité en face, tu vas voir, ça va t'énerver, ça va te casser les couilles. Mais en fait, à la fin, de le regarder en face, ça va t'aider à aller de l'avant. On en parlait tout à l'heure, mais le hug de Roy et Jamie, pour moi, ça m'a fumé aussi. Et en fait, globalement, tout l'arc de Jamie. Et juste après ça, les révélations des circonstances de la mort de son père, de Ted, parce qu'il appelle la psy pour lui expliquer que son père s'est suicidé. Juste avant ça, un peu plus tôt dans la saison, il y a cette fameuse, partie de Fléchette qui est incroyable.
Barbecue sauce.
Avec Rupert, où il explique qu'en fait, son père est mort, mais sans expliquer pourquoi. Donc, on comprend qu'en fait, son père n'est plus là. Mais quand on comprend qu'en fait, son père s'est suicidé, c'est pas le même niveau de mort. Hein.
Bah oui, et tu comprends cette positivité à toute épreuve, du coup, qu'il a développée. T'es là, yes, peut-être quand ton père, il se donne la mort, tu deviens le mec qui voit que du bon dans la vie. Parce que s'il y a du pas bon dans la vie, ça finit très mal. Et c'est en parallèle avec... Oui, c'est ça que Traficote dit. J'étais là, c'est en parallèle ouais. avec Rebecca aussi. Mmh. C'est l'épisode de où du coup
l'enterrement.
Traficote dit, je n'ai pas du tout aimé l'épisode de l'enterrement quand ils mettent en parallèle Ted qui raconte le suicide de son père avec Rebecca qui raconte la découverte de l'infidélité de son père et puis pourquoi toute l'équipe est là. Je me souviens pas trop du contexte. Je me souviens que le montage alterné il avait bien marché et que alors en termes de gravité c'est pas du tout pareil de suicider et de tromper sa femme évidemment, mais je pense qu'il y a un truc. C'est le moment où il y a une cassure dans l'enfance quoi.
Bah oui.
Et où ça cristallise chez Rebecca. Peut-être son rapport avec les hommes et chez Ted son rapport à la vie en général quoi.
Puis c'est un deuil. En fait, pour moi, c'est un deuil, c'est-à-dire que tu désacralises ton père, c'est-à-dire que tu fais le deuil de ok, mon père était un mec parfait et sans doute que quand ton père se suicide, tu pars aussi du principe que ton père n'était pas un homme parfait quoi.
Probablement.
Ce moment moi qui m'a fait tellement pleurer où elle chante Never Gonna Give You Up d'ailleurs à l'enterrement là qui est et puis tout ce truc avec Never Gonna Give You Up avec sa daronne et tout, je trouvais ça vraiment c'est très bien pensé quoi et surtout Rebecca enfin l'actrice qui joue Rebecca chante à putain de merveille il y a plusieurs reprises elle chante
mais quel talent n'a-t-elle dans pas la série qu'elle cuisine mal hein parce que sinon c'est trop
c'est quand c'est la scène de karaoké aussi qui est incroyable où elle chante et t'es là waouh qui chante pour moi tous les jours quoi s'il te plaît
c'est pas pour rien qu'elle a présenté l'Eurovision finalement
quoi
cette année elle a présenté l'Eurovision là,
je
il y a
savais
deux
pas,
semaines
je suis pas suivi.
Qu'est-ce qu'elle était belle oh my god et grande
je vous ai parlé de Thank You and Fuck You qui pour moi est en fait, faut garder. Pour moi, il y a vraiment deux séquences que j'envoie aux gens autour de moi quand j'ai envie de leur dire des trucs pour leur expliquer que Ted Lasso c'est cool. C'est la partie de Fléchette et Thank You and Fuck You pour moi. Alors même si ça spoil de ouf le fait que son père soit mort, tu vois.
Oui, mais c'est pas tant une série à spoil pour moi Ted Lasso. Oui. Je dis ça en étant frileuse des spoils, mais c'est en fait tu commences Ted Lasso en sachant que son père est mort. C'est pas grave, tu vas pas passer un mauvais moment, ça va pas te gâcher toute la série, je pense.
Pour moi, l'autre moment qui m'a vachement marqué, c'est le moment où Rebecca, à la fin de la saison 1, dit la vérité à Ted et elle explique pourquoi il est là et qu'en gros, elle l'a fait venir pour faire perdre l'équipe.
Et maintenant, c'est un peu chiant parce qu'on s'aime bien, mais bon, du coup, je te le dis.
Et en fait, je trouve vraiment que les deux acteurs jouent génialement et que, en fait, les masques tombent. Pour la première fois dans toute la série, en fait, les masques tombent entre eux. Et en fait, ça donne aussi là sur la suite de leur histoire. Et je trouve ça très chouette qu'ils mettent ça en scène aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de vérité qui sont durs à dire, mais en fait, à un moment donné, il faut le faire. Et en fait, la relation, elle peut aller de l'avant à ce moment-là.
Oui, c'est pas une cassure de... Et c'est comme ça que Rebecca et Ted ont arrêté de se parler à jamais. Parce qu'en fait, dans la vie et dans la vie des gens adultes... Et ben on surmonte les problèmes quand on peut, on en parle et on se rend compte que bah en fait oui c'était pas cool de la part de Rebecca et en même temps bah elle l'a dit et peut-être que ça sert à rien de lui en vouloir à vie pour ça quoi.
L'épisode sur Bird bien sûr que j'ai noté parce que en fait pour moi c'est tu vois c'est peut-être un des regrets que j'ai c'est-à-dire que effectivement la série parle de ce personnage mais n'en parle pas assez je trouve parce que pour moi
t'étais
il est
content d'avoir sa petite backstory quand même à
bien
la fin,
sûr
rapidement.
Oui de ouf. Évidemment.
C'est quoi un pain de Met? Ce qu'il dit, j'ai volé un pain de Met et je suis là. Est-ce que ça vient en pain? Je regardais tout Breaking Bad quand même, je suis une experte de la méthamphétamine et je suis là. Je pense qu'un pain, c'est beaucoup. C'est énormément de méthamphétamine.
Et puis, pour moi, le dernier truc que j'ai noté, c'est ce fameux épisode où Sam vient protester contre le sponsor. Et où. Si je me trompe pas, c'est la première fois où l'équipe est fédérée. Parce oui. que, en fait, pour moi, il y a un shift après dans l'équipe. C'est que l'équipe devient une entité. Alors certes, il y a tous les personnages quoi, qui sont dedans. Il y a un vrai truc en fait qui se crée là où avant l'équipe, bon bah c'est juste
c'est des gars qui bossent ensemble.
Voilà.
C'est pas une équipe.
Et je trouve que Sam et cette fameuse histoire avec son père, etc., et devenir stand-up par rapport à ce sponsor qui, alors je sais plus ce qu'ils font exactement, ils exploitent
les ressources du Nigeria, ouais. Quel pays d'où il vient, et ils ruinent la nature, ouais. Quoi, le pays.
Et en fait, j'ai trouvé ça canon, et de voir qu'en fait l'équipe se réunissait derrière lui.
Et c'est Jamie le premier, qui lui aussi masque le sponsor. Et ça, pour le Jamie de l'époque,
bah,
big
c'est
move.
Dur, bien sûr. Et oui, t'as raison, effectivement. Et pour moi, c'est, tu vois, vraiment le début de, tu vois, à la fin, en fait, l'équipe, effectivement, tu vois, ça se passe trop bien dans l'équipe. C'est-à-dire que, il n'y a pas de... D'ailleurs, j'ai adoré le moment où Danny Rojas se retrouve face à Zoro
en
Coupe du Monde et qui change de visage totalement. C'était incroyable. Et
que, I will kill you.
Et en fait, j'ai trouvé ça génial de voir cette facette-là de Danny Rojas aussi, tu vois, qui... En fait, qui est un tueur. En vrai, c'est un tueur, le mec. Quand il n'est pas dans cette équipe-là où, en fait, tout se passe bien et tout, bah, en fait, le mec, c'est un killer, quoi.
Quand il faut, il peut.
Ouais.
Logan Roy.
Exactement. Mais ouais, voilà, tu vois, j'ai trouvé que cet épisode crée un peu de la cohésion en fait entre l'équipe et que cette cohésion-là va rester après tout au long du reste de la série, quoi.
Alright.
Voilà.
Je pense que c'est une bonne tier list. Traficote nous dit toutes les scènes des Diamond Dogs.
Ah
so
oui.
So good. Oui,
bien sûr.
On s'en laisse jamais. Bah écoute, moi je n'ai pas de top de mes scènes préférées, mais je te rejoins sur le fait que Ted Lasso, c'est une série que je suis très contente d'avoir vue exister. Je suis très contente du succès qu'elle a eu, alors un peu plus dans le monde anglo-saxon qu'en France, mais quand même, ça fait déjà du monde. Et je trouve, pour toi et moi qui avons commencé à parler masculinité sur Mademoiselle il y a des années, à une époque où le monde en parlait moins, il n'y avait pas Ted Lasso.
Le monde n'en parlait
à la télé. Et on a vu arriver les séries qui prenaient en compte le féminisme et la redécouverte et les avancées actuelles du féminisme. Et on commence à voir arriver de plus en plus de contenu. Alors on avait parlé de Queer Eye ensemble sur Mademoiselle, mais qui est pas de la fiction. Et on a de plus en plus de contenu qui interroge les masculinités, mais qui ose en plus le faire frontalement, tu vois. Et je pense que c'est bien de le faire aussi en soum-soum, tu vois. C'est bien d'avoir des contenus qui sont pas estampillés. On va parler santé mentale, on va parler masculinité. Mais c'est bien aussi des fois de dire les termes, tu vois, et d'avoir... Ouais, en fait, à la fin, Roy Kent, sa victoire finale, c'est qu'il va avoir une fucking psy, tu vois. Et c'est bien, des fois, de montrer ça en tant que femme qui traîne avec des hommes qui, des fois, ne vont pas voir de psy et de femme qui n'a pas été voir de psy pendant longtemps et qui, parfois, arrête de voir sa psy et là, oh bah, dis donc, ça va moins bien, c'est fou, quoi. Ah, qui aurait pu le croire. Je trouve que c'est une série qui est précieuse et qui, en fait, on n'a pas beaucoup de séries utopiques, tu vois. Enfin, feel good, mais au point où... Pour moi, Ted Lasso, c'est une utopie. C'est l'idée, le but, c'est qu'un jour, ça marche comme ça. Qu'un jour, tous les gens aient le petit surplus d'intelligence émotionnelle et d'empathie qu'il y a dans Ted Lasso, en tout cas dans la dernière saison. Ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs, qu'ils ont pas de trauma, qu'ils ont pas leur propre biais, qu'ils vont appliquer à leur lecture de la situation, mais en tout cas, ils font toujours au moins l'effort, pour la plupart, de se mettre à la place des autres et de se dire peut-être que je peux me décentrer et prendre en compte ce que me dit l'autre et juste accepter qu'il y a d'autres façons de faire et que moi aussi je peux grandir et évoluer. Et si tous et toutes on faisait ça tout le temps, le monde, incroyable. Mais si déjà on le fait tous et toutes un petit peu plus souvent, si c'est une fois de plus et que c'est quelque part un peu parce que Ted Lasso nous a appris à le faire ou nous a rappelé que c'est cool de le faire, c'est déjà très très bien, quoi. Donc je suis pour les œuvres d'art qui osent dire on est genre les gens sont bons, tu vois. On disait c'est l'anti-succession. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui ont du succès parce qu'elles sont nihilistes, parce qu'elles sont oh là là dark, edgy, tout le monde est mauvais, ouais. Nous avons tous en nous de la noirceur. Oui, mais pas que. On a aussi tous en nous la capacité à être une bonne personne et à prendre soin des autres et à prendre soin de soi. Et Ted Lasso nous dit peu importe qui vous êtes, vous pouvez aussi le faire et le faire à votre façon et être quand même vous-même. Et ça, c'est quand même absolument super.
Et si vous avez aimé Ted Lasso, je vous invite à regarder Shrinking, pareil sur TV+, qui va encore plus loin dans le sujet de la santé mentale, puisque c'est des psys. Et pour le coup, ils sont limite un poil too much, sachant, si tu veux, tu vois, trop conscient.
Oui.
Mais en même temps, ça, franchement, ça se laisse regarder, c'est vraiment trop cool. Donc si jamais ça vous manque un peu, c'est le même showrunner.
Vous avez l'esprit Ted Lasso vraiment infusé dedans.
Avec Harrison Ford, Jason Segel et tous les persos, tous les acteurs, on va dire, de second rôle sont vraiment canons, quoi. Et t'as aussi la meuf de dans Scrubs,
la blonde.
Non, la
Carla.
La femme du mentor de
Cox.
La femme de Cox.
Ah ouais, mon gars, c'est trop vieux Scrubs. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mais le créateur de Ted Lasso est aussi le créateur de Scrubs.
Ah, je ne savais pas.
Lawrence.
Incroyable.
Donc le créateur de Shrinking.
Incroyable.
Il y a 2-3 créateurs de séries comme ça où si vous aimez une de leurs créations, a priori, vous pouvez essayer de les suivre et de regarder un peu ce qu'ils font après ou ce qu'ils ont fait avant. Il y a moyen que ça vous parle. Shrinking, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai regardé 2 épisodes, je suis pas rentrée dedans, mais c'est pas très grave. Il y en a
peut-être
pour tout
le monde. Peux retenter.
Oui, peut-être, mais je suis pas sûre que mes problèmes avec la série n'aient pas changé. C'est vraiment sorti il y a 3 mois, donc c'est pas. J'ai pas essayé il y a si longtemps, quoi. Mais oui. Peut-être je peux retenter. Et Get Uliel sur le chat me rappelle que les scènes entre Killy et Rebecca sont vraiment cool. Ça fait plaisir, des scènes d'amitié mentor entre 2 femmes qui s'encouragent. Oui. Surtout dans une série où il y a que des mecs, ils auraient pu mettre les 2 femmes en compétition, clairement. C'est vrai que même dans une série sur une équipe de foot non mixte, ils arrivent à faire des personnages féminins plus développés que dans d'autres séries où elles ont plus de place pour briller. Donc bravo.
On vous spoil le prochain film club ou pas, vous qui êtes là avec
nous? Allez,
let's go. Oui.
Dimanche de la semaine prochaine, dans le film club, on parle rivalité féminine, entre autres, puisqu'on parle de Lolita malgré moi, Mean Girls, comédie pour adolescentes, sur les adolescentes des années 2000, avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams, et des Mean Girls, hein, vraiment des très méchantes meufs populaires au lycée.
Ça s'appelle Thérapie Vérité, Shrinking au Québec, putain.
Incroyable. Thérapie Vérité.
J'adore les Québécois.
Oui. Est-ce que tu as un peu de temps avant de finir? Est-ce qu'on finit vite ou est-ce qu'on se regarde un petit best-of avant de finir?
Comme tu veux.
Ok, on va se regarder un petit best-of, je te donne un écouteur. On va vous dire au revoir pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ces podcasts où on va parler du Red Wedding, épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones avec Tequila Tex. Restez abonnés au flux, on va continuer à parler de séries télé, même en attendant House of the Dragon saison 2.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.